Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après des tensions autour de l'abattage de 200 bovins dans l'Ariège, après un cas de dermatose nodulaire, les forces de l'ordre ont repris cette nuit le contrôle de la ferme. RMC s'est procuré le jugement qui a prononcé la liquidation de Brandt. La justice n'a pas cru au projet de reprise des salariés et Karim Benzema relance le débat sur son retour en équipe de France. Son rêve, participer à la prochaine Coupe du Monde.
Face à face tendu hier entre agriculteurs et forces de l'ordre dans l'Ariège.
Jets de projectiles, gaz lacrymogène, grenades de désencerclement. Hier, aux abords de cette ferme, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des centaines d'agriculteurs opposés à l'abattage de 200 bovins en raison d'un cas de dermatose nodulaire, maladie contagieuse qui touche ces animaux. Ils jugent cette décision disproportionnée. Les forces de l'ordre ont pu reprendre hier soir le contrôle de cette ferme. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place pour RMC. Alors qu'en est-il ce matin ?
Oui, un blindé de la gendarmerie bloque depuis quelques heures maintenant l'accès à la ferme. Impossible d'y accéder ce matin. Il y a des cordons de gendarmes mobiles juste derrière. La ferme est sous contrôle. Il n'y a plus d'opposants sur place. On va pouvoir entrer ce matin dans la phase 2 de l'opération. Elle va pouvoir débuter avec l'entrée en action des vétérinaires. La préfecture de l'Ariège que j'ai contactée il y a quelques minutes refuse de dire pour l'instant quand cette opération d'abattage va pouvoir débuter. Les services vétérinaires doivent, on le rappelle, endormir 208 vaches, injecter évidemment le fameux produit qui va mettre fin à leur jour. On ne sait pas si les deux éleveurs, les deux propriétaires de la ferme et leurs familles vont pouvoir assister à cette scène qui sera forcément difficile, forcément cruelle.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'Ariège pour RMC.
7h02 et c'est un mélange d'incompréhension et de colère après la liquidation de Brandt.
700 emplois supprimés, la SCOP pourtant soutenue par les salariés et les pouvoirs publics n'a pas suffi. Le gouvernement pointe du doigt les banques accusées de ne pas avoir joué le jeu du patriotisme. Mais Victor Joannin, selon le jugement du tribunal, leur rôle n'est pas le seul à peser dans cette décision.
Oui, le tribunal rappelle d'abord que Brandt était déficitaire depuis plusieurs années dans un marché ultra concurrentiel sans perspective de retour à meilleure fortune. Le plan de financement du projet de SCOP présentait trop d'aléas, peut-on lire dans le jugement. Il reposait en grande partie sur un financement participatif, c'est-à-dire une cagnotte en ligne au succès incertain, ainsi que sur la vente hypothétique de biens immobiliers. Le porteur du projet, un entrepreneur sans aucune expérience dans l'électroménager, n'avait pas non plus réussi à trouver un partenaire industriel vital pour former des synergies. Le tribunal estime même que la SCOP aurait pu conduire à une mise en danger supplémentaire des salariés tenus de placer plus de 1000 euros de leur denier personnel dans l'aventure. En somme, un projet voué à l'échec, un simple prolongement artificiel d'une activité condamnée, selon ses mots.
Et on en parle à 7h10 avec François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Le sort de 1000 salariés d'IKKS fixé aujourd'hui. Le tribunal de Paris se prononce sur la reprise du groupe de prêt-à-porter, groupe placé en redressement judiciaire début octobre. Une offre semble tenir la corde. La moitié des emplois pourrait être sauvée si elle est choisie.
7h04 sur RMC. La mère de Matisse réclame une loi pour interdire le protoxyde d'azote.
Ouais, son fils de 19 ans a perdu la vie à début novembre, percuté par un automobiliste sous protoxyde d'azote. Cette mère de famille a été reçue hier par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, pour leur demander d'interdire ce gaz au volant.
On a évoqué la possibilité de considérer la substance comme une drogue en fait, hein, et prendre en considération que les gens qui ont une détention sur eux de protoxyde puissent par exemple se faire confisquer le véhicule ou être interpellés, chose qu'aujourd'hui est impossible. Donc il y a vraiment des pistes, on a vraiment senti que nos ministres étaient vraiment sensibilisés sur le sujet et que les choses allaient vraiment bouger. Et ce qui est important pour nous et pour les autres.
J'y reviendrai d'ailleurs à 8h30 avec mon invité dans le face-à-face, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il fera aussi le premier bilan de ces fouilles XXL qui ont lieu en ce moment même dans les prisons de France.
RMC 7h05, un élan de solidarité se dessine pour Sonia héroïne du 13 novembre 2015. Elle avait dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaoud et évité un nouvel attentat à la Défense. Son témoignage, déjà raconté en exclusivité sur RMC début 2016, est maintenant mis en lumière dans un documentaire sur France Télévisions. Une cagnotte en ligne a été lancée. Et Guillaume Bié, elle cumule déjà plus de 37 000 euros.
Oui, cagnotte lancée par l'association de victimes Life for Paris pour aider Sonia qui vit toujours sous protection avec une autre identité et qui ne peut pas réclamer de l'aide, souligne le président de l'association Arthur Desnouveaux.
Le paradoxe de Sonia, c'est que c'est une héroïne bien vivante mais complètement désincarnée pour des raisons de sécurité. Et donc finalement, participer à cette cagnotte, c'est une manière de lui rendre hommage et de lui dire « on sait ce que vous avez fait Sonia ». On veut vous en remercier et vous incarner quelque chose de très beau dans toute cette horreur du 13 novembre. Et donc, donner à cette cagnotte, c'est vraiment faire un geste citoyen.
D'autant plus que Sonia en a besoin, souligne son avocate, maître Samia Maktouf.
Elle est surtout face à des difficultés administratives, financières, de santé aussi. Tout ce qu'elle espère, Sonia, c'est de pouvoir, une fois que ses lourdes dettes seront payées, c'est de pouvoir faire du caritatif ce qu'elle faisait avant cette vie qu'elle mène.
À travers son avocate, Sonia remercie déjà tous les donateurs. La cagnotte, elle, reste ouverte pour une durée indéterminée.
Jean-Pierre Berger, nouveau maire de Saint-Étienne. Il était jusqu'ici premier adjoint et remplace Gaël Perdriau, condamné à 4 ans de prison et à l'inéligibilité dans l'affaire du chantage à la sextape. Le nouveau maire a été désigné lors d'un conseil municipal extraordinaire. Il dirigera la ville jusqu'aux élections municipales de mars. Karim Benzema lui fait un appel du pied à Didier Deschamps. Le Ballon d'Or 2022 qui avait pris sa retraite internationale il y a près de 3 ans ouvre la porte à un retour en équipe de France dans une interview donnée à l'équipe. Il rêve tout simplement du mondial. Aurélien Tiercin.
Karim Benzema en équipe de France, c'est normalement de l'histoire ancienne, l'attaquant ayant annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Sans compter ses relations très compliquées avec le sélectionneur Didier Deschamps, le sujet de sa blessure pendant ce mondial qatarien et son renvoi des Bleus étant toujours sensible. Mais à nos confrères de l'équipe, Benzema affirme ne pas vouloir polémiquer et laisse entendre qu'en cas d'appel pour la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, il pourrait répondre « oui, il dit aimer gagner, aimer les trophées, alors jouer une Coupe du Monde ne se refuse pas. La question d'un retour post-mondial lui est aussi posée. Sous les ordres possiblement de Zinedine Zidane, pressenti comme futur coach des Bleus, l'attaquant de 37 ans qui joue en Arabie Saoudite avoue avoir toujours une relation exceptionnelle avec Zidane et il reste flou en disant « là, on ne sait pas du tout ce qui se passera ».
Et l'OL conforte sa première place en Ligue Europa après sa victoire hier soir 2-1. Les Lyonnais assurent au moins leur place en barrage. Le LOSC et Nice n'ont pas brillé. Défaite des Lillois 1-0 face aux Young Boys de Berne. Nice s'est incliné sur le même score face à Braga.
C'était le journal de Clément Langouet sur RMC. Il est 7h08. Brandt, c'est fini. La justice a annoncé donc hier la liquidation de Brandt. 700 salariés, 2 usines dans la région d'Orléans. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la région Centre Val-de-Loire. Vous étiez prêt à mettre plusieurs millions pour sauver Brandt, mais voilà, le jugement du tribunal en a décidé autrement. Ils ont décidé la mort de Brandt. RMC a pu consulter en exclusivité le jugement du tribunal. La reprise de l'entreprise par ses salariés était, je cite, vouée à l'échec. Voilà ce que disait le tribunal. Alors à qui la faute? Je vous pose la question dans un instant. Et vous-même, qui vous nous écoutez, venez témoigner. Est-ce qu'on peut encore croire à l'industrie en France ou est-ce qu'on va inéluctablement vers la fermeture de la marque France en quelque sorte? J'attends vos témoignages au 32-16. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC et RMC Story. 700 salariés sur le carreau. La marque française d'électroménager Brandt liquidée. C'est le tribunal de commerce de Nanterre qui en a décidé ainsi. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la région Centre Val-de-Loire. Vous auriez aimé que la décision soit différente. Vous avez tout fait pour que la décision soit différente. Vous étiez prêt à mettre des millions, votre région, la mairie d'Orléans. Il y avait plus de 20 millions sur la table. Et pourtant, cette décision comme un couperet. Votre réaction ce matin?
C'est une réaction de colère, parce qu'on pouvait éviter. On pouvait éviter. C'est une décision qui est finalement une décision du renoncement, c'est clair, une décision de l'abandon et une décision du sacrifice. Et ça, c'est inacceptable. Et je considère que si nous continuons ainsi, la France industrie est complètement morte. On ne peut pas laisser partir une entreprise qui, sur les 2 derniers exercices, était à l'équilibre, parce que les salariés se battent, parce que les ingénieurs se battent. Ce sont des marques qui sont emblématiques. Demain, elles vont être produites en Chine. Et on ira acheter des produits chinois, les voitures, l'électroménager. Moi, j'ai des exemples dans ma région. J'ai des exemples qui marchent. Alors, pourquoi ne pas donner à cette probabilité, cette possibilité, pourquoi ne pas donner à ces salariés qui se sont mobilisés dans une SCOP, pourquoi
ne pas leur donner leur chance ? Les juges, eux, en ont décidé effectivement autrement. RMC a pu lire en exclusivité le jugement sur lequel ils se fondent. Ils estiment que Brandt était déficitaire, que Brandt avait des dettes, que le projet de reprise par les salariés était, je cite, « voué à l'échec ». Voilà ce que dit le tribunal.
Le tribunal le dit, mais il y a aujourd'hui une réalité économique, une réalité industrielle. Cette entreprise avait fait la preuve sur les deux dernières années qu'elle était revenue à l'équilibre. Certes, elle avait des dettes, mais nous étions engagés dans un processus qui permettait de gommer ces dettes. On avait un niveau de loyer des locaux industriels qui était faramineux dans le montage qui avait été fait avec les Algériens. C'est pas normal. Finalement, le travail, la production des salariés, elle est aujourd'hui condamnée par un abandon de l'industrie à l'échelle de notre pays, je le dis.
Le pays abandonne, enfin je veux dire, il y a un décalage total entre les grandes promesses, les grandes déclarations.
Mais bien sûr, on parle de
réindustrialisation toute la journée. En réalité, c'est totalement décalé avec ce que vous avez vécu sur le terrain.
Mais vous voyez qu'on ne résiste pas à cela. On est infoutu sur de l'électroménager qui est dans tous les foyers français. Brandt, il y en a partout, du Dietrich, c'est la haute qualité. On est infoutu aujourd'hui de dire que ces entreprises, on va les accompagner. Et soyons clairs, si on ne change pas les règles à l'échelle de l'Europe, on n'y parviendra pas. Aujourd'hui, l'Europe est le ventre mou de la planète. On peut
pourquoi par normes excessives, par règles excessives. Mais on sait que par exemple la BPI n'avait pas le droit de monter au capital,
mais c'est,
parce
mais c'est
que
aberrant.
L'entreprise était légèrement trop grande par rapport. Il y a des seuils.
C'est aberrant quand vous voyez comment d'autres continents, l'Amérique aujourd'hui, la Chine, comment ils soutiennent leur industrie pour envahir complètement le marché européen et français.
Est-ce que nos règles nous tuent aujourd'hui?
Mais nos règles nous tuent, c'est complètement dépassé. Donc moi je dis aujourd'hui qu'il faut, avec les collectivités territoriales et avec l'État, que nous ayons une vraie politique industrielle, que nous ayons des banques qui soient acquises à cette politique industrielle.
Les banques, on peut dire qu'elles n'ont pas été tellement présentes. On va y revenir, mais je voudrais qu'on accueille Mathieu parce qu'il vient de nous appeler au 32-16. Bonjour Mathieu.
Bonjour Pauline.
Mathieu à Rouen, dans le Morbihan, sur les routes d'ailleurs, peut-être au moment où on se parle, puisque vous êtes chauffeur routier. Votre réaction, est-ce que vous pensez que c'est symptomatique effectivement de la mort de l'industrie française?
Les Français savent faire, hein, le Made in France. Moi, je trouve qu'on fait des produits de qualité. Là, on a la preuve avec le jeu vidéo qui a été primé, la pub pour Intermarché, là, qu'on vient de parler, où tout le monde en parle. On sait faire le Made in France.
On sait faire.
Mais le problème, c'est que ce qui tue nos entreprises, c'est les charges. Faut quand même sortir énormément d'argent pour produire. Donc, du coup, l'argent qu'on sort, faut la rentrer. Et derrière, les produits, on les vend plus cher. Donc, c'est sûr qu'il faut soutenir notre industrie française et peut-être pas non plus que l'État donne de l'argent à perte, on va dire, dans les entreprises, mais je sais pas. L'électricité, on est quand même très souverain en France. On arrive à produire notre électricité. On l'a fait payer à des prix astronomiques aux entreprises. Il y a plein de choses comme ça où déjà on pourrait faire diminuer. J'ai l'impression que tout le monde veut réindustrialiser la France, mais par contre, dès que l'État a un problème d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller taxer les entreprises. C'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser la France. Hein.
Contradiction totale, effectivement, que vous pointez, Mathieu. Est-ce que vous partagez ce constat, François Bonneau?
Oui, il y a l'enjeu des charges, mais il n'y a pas que l'enjeu des charges. Encore une fois, aujourd'hui, les difficultés de cette entreprise, elles étaient liées au fait que la production, elle était complètement siphonnée par un niveau de loyer qui était déraisonnable. Il faut, à l'échelle de la France, que nous ayons du portage. Vous avez parlé de la Banque publique d'investissement. Il faut que nous ayons une Banque publique d'investissement qui soit capable dans ces situations. C'est l'essentiel qui se joue.
Elle aurait été capable. Le problème, c'est qu'elle en était interdite, d'après ce que je comprends, parce que la taille de Brandt était excessive, oui, par rapport à son cahier des charges.
Règles européennes, règles françaises. Regardez encore une fois ce qui se passe en Chine et ce qui se passe. Est-ce qu'on va se défendre? Est-ce qu'on va être capable d'avoir une réglementation, une protection à l'échelle de l'Europe qui fasse que le Made in France, le Made in dans l'Europe soit aujourd'hui en train de perdre le marché de l'automobile? Est-ce que vous voyez des réactions de l'Europe au niveau véritablement où il doit se situer?
Ils sont en train d'assouplir la règle déjà de 2035 qui sans doute avait mis la charrue avant les bœufs.
Et j'entends les charges, mais quand même, qui paie les pots cassés? Ce sont les 700 familles là, qui sont aujourd'hui.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que je voulais vous poser, François Bonneau, vous qui êtes donc le président de la région. Qu'est-ce qui va se passer maintenant donc, pour ces 700 salariés?
Il va y avoir un plan social. Ils vont avoir des droits, etc., etc. C'est-à-dire qu'on perd à la fois 700 emplois et on condamne 700 familles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la région va à nouveau se mobiliser. Moi, je veux, dès la première heure, être là pour que toutes les formations qui seront nécessaires pour que ces personnes puissent retrouver un boulot, on puisse le faire. La région a une compétence économique. Dès lundi, je vais engager un travail avec les entreprises du secteur pour voir. Il y a des gens qui ont des compétences très intéressantes, qui sont conducteurs de ligne, qui savent faire de la maintenance, qui savent faire de la logistique. Il faut que nous les accompagnions. Mais on perd 700 emplois. Et ces 700 familles, c'est Noël avec la feuille de licenciement sur la table du réveillon.
Et
c'est
inacceptable. Et on partage effectivement cette très très grande tristesse. Merci. Merci François Bonneau, donc président de la région Centre-Val-de-Loire. Merci aussi à Mathieu pour son témoignage. Et puis Mathieu, vous le disiez, il y a des choses merveilleuses qu'on sait faire en France et que le monde entier nous envie. Vous parliez de la pub Intermarché qui cartonne absolument partout dans le monde. Eh bien, sachez que justement, à 7h40 sur RMC, Théophile Dufresne, qui est le cofondateur d'Illogic Studio, qui a produit, créé cette fabuleuse pub Intermarché, sera avec nous en direct sur RMC. Il est 7h19, Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé cette semaine être prêt à organiser des élections dans son pays. Alors attention, un chef d'État en guerre sort rarement gagnant des élections qui suivent, hein.
Oui, c'est même une malédiction. Clémenceau, De Gaulle, Churchill, tous ont gagné la guerre et pourtant tous ont dû quitter le pouvoir.
Et puis il y aura Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter l'histoire avec Arthur Chevalier, 7h21. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, sous la pression de Donald Trump, Volodymyr Zelensky a commencé à ouvrir la porte à une nouvelle élection présidentielle. Une élection que le président ukrainien n'est pas du tout sûr de gagner.
Non, et d'après certains sondages, il pourrait même les perdre. Son concurrent, c'est un général très populaire qui s'appelle Valery Zaluyny. C'est l'ancien commandant en chef des armées ukrainiennes. Aujourd'hui, il est ambassadeur à Londres.
Ça paraît impensable que Zelensky perde les élections après tout ce qu'il a fait en réalité, non?
Oui, et pourtant, ça serait pas le premier, hein, puisqu'en général, les chefs d'État en temps de crise ne survivent pas à la crise, justement. Prenez par exemple Georges Clemenceau, c'était le président du Conseil, donc le Premier ministre de la France pendant la Première Guerre mondiale. Une guerre contre l'Allemagne qu'il va remporter en 1918. C'est un héros national, et donc en 1920, il se présente à l'élection présidentielle où il était clairement le favori.
Et il perd?
Mais oui, il perd. Il perd, alors à l'époque ce sont les parlementaires qui élisent le président, pas les Français. Mais oui, Clémenceau perd cette élection et en plus contre un homme taciturne, sans le moindre charisme, un nobody qui s'appelait Paul Deschanel, complètement oublié aujourd'hui. Ça sera la fin de la carrière politique de Clémenceau.
Le général de Gaulle va lui aussi en réalité être écarté du pouvoir à ce moment-là.
Exactement. Alors lui, c'est un peu différent puisque c'est de son fait. En 1945, de Gaulle a libéré la France de l'Allemagne nazie. Tout le monde l'adore. Hein. Il restaure la République. Il devient le chef d'un gouvernement provisoire. Un gouvernement avec lequel il va avoir très vite des désaccords. Et de Gaulle détestait faire des compromis. Qu'à cela ne tienne, en 1946, il démissionne. Et alors, avec la manière, hein, un dimanche matin, il convoque ses ministres. Personne ne sait pourquoi. De Gaulle entre dans la pièce, il annonce « je démissionne », il serre la main à tout le monde et il s'en va. Merci, bonsoir. Il reviendra au pouvoir, mais 12 ans plus tard, après une très longue traversée du désert.
C'est pas beaucoup mieux pour Winston Churchill.
Non, même combat pour Churchill. À la tête de l'Angleterre, il avait résisté presque seul à Adolf Hitler. En 1945, c'est la fin de la guerre. Du coup, on organise des élections. Churchill fait campagne pour le parti conservateur, donc la droite. Et contre toute attente, c'est le parti travailliste, donc la gauche, qui remporte la mise. L'Angleterre met son héros à la porte. Churchill se réfugie à la campagne où il passe ses journées à déprimer. Mais lui aussi reviendra 6 ans plus tard, à 77 ans. Il redevient Premier ministre pour un dernier tour de piste.
Mais pourquoi, quand on gagne la guerre, on perdrait les élections?
Alors c'est un peu difficile à dire, c'est une sorte de malédiction. Mais il y a une explication plausible. Quand vous êtes chef de guerre, vous liez votre sort à cette guerre. Une guerre, évidemment, ça laisse de très mauvais souvenirs. Quand ça se termine, eh bien, les gens veulent passer à autre chose. Et le premier qui paye, naturellement, c'est le chef. Alors ce qui ne veut pas dire non plus que les gens ne vous aiment plus, ni qu'on ne peut pas revenir. Bref, rien n'est joué pour Zelensky, c'est l'histoire qui le dit.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Oui, Gérald Darmanin qui revient des Antilles, où il a visité plusieurs établissements présidentiels. pénitentiaire, oui, j'allais dire présidentielle. En fait, le lapsus, c'est pas ici. C'est pas mal. Cette semaine, il a participé à une fouille des cellules de Fleury-Mérogis. Et voilà, en fait, depuis octobre, il aura passé plus de temps en prison que Nicolas Sarkozy. Donc, on y vient, finalement, on y vient. Il va nous sortir un bouquin aussi. Le guide du mitard, il va critiquer. Fleury-Mérogis, 1 étoile sur 5, établissement décevant, punaise de lit et petit déjeuner qui laisse à désirer. D'ailleurs, je pense que les établissements auront tous une étoile. Gérald Darmanin est aussi mobilisé sur le terrain du narcotrafic à Marseille. Alors ce mardi, une opération a mobilisé 1500 policiers. 15 points de deal ont été contrôlés sur les 213 000 que compte Marseille. Non mais parce qu'à Marseille, tu t'assois sur un banc public, t'es sur un point de deal en fait. Tu regardes en dessous, oh, 2 kilos de coke. Et ils ont récupéré 7 kilos de cannabis. Mais bon, là encore, trouver 7 kilos de cannabis à Marseille, ça a pas l'air si difficile. T'installes une fête foraine, tu mets une attraction avec un looping, 2 policiers en dessous avec un drap, et hop, en 2 heures, ils te récoltent 40 kilos, 8 kalachnikovs, 30 seringues usagées et un bébé. Est-ce que c'est raisonnable d'ailleurs de saisir le cannabis à Marseille? Je veux dire, quand t'as des réseaux avec des délinquants qui ont des calaches, qui s'organisent en cartels, qui sont plutôt violents, est-ce vraiment une bonne idée de retirer le cannabis de l'équation? Est-ce que ça va pas les rendre encore pires si on leur enlève? Tu sais, Apolline, moi si je me fais braquer, bah, entre Tony Montana et Bob Marley, je prends Bob Marley.
Oui, bien sûr.
Fuck Babylone. Est-ce que la solution pour faire baisser la délinquance à Marseille, c'est pas de leur donner encore plus de cannabis?
Ah ouais.
Bonjour monsieur, je vois que vous êtes en train de tabasser cette personne. Je vais vous demander de vous mettre sur le trottoir, tirer sur ce joint de marijuana de Jamaïque. Allez, allez, on triche pas. Buffalo Soldier. Central, c'est bon, il est inoffensif. Par ailleurs, la prison est-elle une solution pour les petits trafiquants? Parce qu'on sait qu'ils peuvent ressortir pire que ce qu'ils sont rentrés, c'est l'école du crime. Je veux dire, tu rentres pour 3 grammes de shit, tu ressors, t'es vice-président des Républicains, ça peut aller très vite. Hein. Alors, Louis Sarkozy proposait l'autre jour de légaliser toutes les drogues, c'était dans sa chronique, c'était chez nous, il disait... Comme disait le général de Montboursif lors de la terrible bataille de Saint-Arnulf en 1237, il faut légaliser la drogue et retirer le code de la route. Voilà. C'est sûr qu'on va rigoler. Le gars, il s'est enfilé toutes les drogues, il prend la route et il n'y a pas de panneau. Alors là, que la fête commence. Aux abris, Apolline. Louis va être dans sa caisse, il va faire « Je vais faire comme le maréchal de Crayencourt en 1716. Allez, rendez-vous avec Gérald Darmanin à 8h25, on va dire cette fois. Hein.
8h25 sur RMC et BFM TV. Gérald Darmanin dans le face-à-face et on vous retrouve, Arnaud Demange, d'ici là. Ce sera à 8h15. Il est 7h26. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. It's time. C'est l'heure de jouer pour vous couvrir. Cette fois-ci, non pas seulement de cadeaux, mais d'argent, de cash. De cash. Parce qu'aujourd'hui, on vous offre jusqu'à 5000 euros cash derrière l'une des cases du calendrier à ouvrir d'ici le 24 décembre. Aujourd'hui, on vous fait gagner en cash soit 500 euros, soit 1000 euros. Parfait pour gâter vos proches, vos amis, votre famille. Vous envoyez tout de suite Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Et vous aurez de quoi faire des cadeaux ou tout simplement vous les garder. Vous avez le droit. Il est 7h27. Le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous. Noël au 7-32-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et ne manquez pas juste après le journal, l'un des fondateurs du studio qui a imaginé cette magnifique, merveilleuse pub Intermarché. Il sera avec nous. Il est 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal des 10 d'Angers. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il vient d'être sacré jeu vidéo de l'année et il est français. Clair Obscur, Expédition 33, repart de Los Angeles avec 9 statuettes des Game Awards et ramène la coupe à la maison. C'est une première. La colère agricole gronde de nouveau en Ariège, notamment contre l'abattage généralisé des troupeaux dès lors qu'un cas de dermatose nodulaire est détecté. Et puis un Français sur 3 souffre d'insomnie en France. Selon le dernier baromètre Santé publique France, durée moyenne d'une nuit, 7h32.
Le jeu vidéo français est à son apogée ce matin.
And the game of the year is... Mon ami, Clair Obscur, Expédition 33.
avec pour la première fois le titre de meilleur jeu vidéo de l'année, décroché par Clair Obscur Expédition 33, une pépite déjà vendue à plus de 5 millions d'exemplaires depuis le mois d'avril. Le jeu tricolore a été sacré cette nuit aux Game Awards, les Oscars du gaming, et on peut clairement parler de prouesse, Clara Gabillet.
Oui, d'abord parce que c'est la toute première création de ce studio français, Sandfall Interactive, une trentaine de personnes installées à Montpellier, petite équipe et petit budget, moins de 10 millions de dollars pour créer ce jeu, bien loin des 2 milliards de dollars pour un GTA. Le principe de Clair Obscur, c'est un jeu de rôle qui nous plonge dans la ville lumière inspirée du Paris de la Belle Époque. Le joueur doit tenter de mettre fin à cette malédiction. Chaque année, les habitants sont effacés par une mystérieuse peintresse. Qui est-elle? Pourquoi fait-elle ça? Un suspense qui reste entier jusqu'à la dernière seconde du jeu. Une direction artistique très poussée également en termes de musique. Parmi les nombreux prix remportés cette nuit, Clair Obscur a aussi obtenu celui de la meilleure bande originale, au point qu'ils entament une tournée européenne de concerts. Tous les billets se sont arrachés en à peine un quart d'heure.
Et autre coup de force de ce jeu vidéo français, son prix plutôt raisonnable comparé à ses concurrents. On est autour des 50 euros, ce qui en fait aussi une bonne idée de cadeau à glisser sous le sapin de Noël.
7h32, soirée sous haute tension en Ariège,
où environ 500 agriculteurs ont tenté de défendre un troupeau de vaches de l'abattage à cause de la dermatose nodulaire. Des affrontements très violents qui ont éclaté avec les forces de l'ordre, car les éleveurs dénoncent des exécutions inutiles. Pourquoi éliminer tout un cheptel quand seuls quelques bovins sont contaminés? Eh bien parce que selon la réglementation européenne, c'est la seule méthode efficace pour stopper la propagation, Amélie Courté.
Oui, car la dermatose nodulaire est particulièrement contagieuse. Elle se transmet par des insectes, tants, mouches, qui piquent un bovin puis l'autre. Et les premiers symptômes, des croûtes sur le corps, apparaissent 2 à 3 semaines après la contamination, laissant le temps à la maladie de se propager.
Donc, c'est malheureusement l'abattage total, dans la mesure où s'il y a un ou deux bovins touchés, c'est qu'il y en a d'autres qui le sont aussi.
Jeanne Brugère-Picot est professeure à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort.
Si on maintient l'infection dans l'élevage, on maintient aussi la possibilité de contamination entre les animaux, et surtout les insectes peuvent partir à 2, 3, 4 kilomètres et infecter d'autres élevages.
S'il n'y a pas l'abattage total d'un troupeau, la maladie met en général 15 jours à contaminer un autre élevage, d'après la vétérinaire.
Le traumatisme reste intact. C'est ce qu'a dit hier dans une story Instagram l'ancienne Miss France Laurie Tillman, après avoir revisionné une séquence des enfants de la télé dans laquelle l'humoriste Harry Habitant l'embrasse de force. C'était en 2013, séquence exhumée sur les réseaux sociaux après la polémique des sales connes lancée par Brigitte Macron à des militantes féministes.
Il est 7h34 sur RMC. On n'a pas tous vécu la même nuit.
Et non, pour un tiers des Français, elle a été agitée, entrecoupée ou tout simplement trop courte, selon le dernier baromètre de Santé publique France publié hier. 33% des 18-79 ans souffrent d'insomnie, un phénomène qui touche davantage les femmes et les personnes précaires. Vous l'avez constaté à Lyon, Vincent Chevalier, on n'est pas tous égaux face au sommeil.
Bien dormi cette nuit, Célia fait partie des chanceuses.
Ça va, plutôt bien.
La jeune femme s'est tout de même fixé un certain rythme pour continuer à bien se reposer.
J'essaye de lire tout le temps avant de dormir, de me coucher vers la même heure, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté, j'essaye de bien manger, j'essaye de faire du sport.
Selon le baromètre, les Français dorment en moyenne 7h32, durée qui évolue selon le sexe et l'âge. À 60 ans, Sandrine s'en rend bien compte.
En fait, ça fait déjà bien 6-7 ans où c'est 6-7 heures et pas plus.
Mais il y a des exception, l'étude les appelle les courts dormeurs. Ils sont 21% à ne pas avoir besoin de plus de 6 heures de sommeil. Marvin en fait partie.
6 heures, je suis dans ma meilleure forme. 7 heures, je dors trop. 8 heures, je dors trop. Et 5 heures, je dors pas assez.
Et puis, il y a un tiers des Français qui se plaignent d'insomnie.
Mes nuits sont un peu compliquées. Mon sommeil est assez agité.
Nicolas cumule les études et un petit boulot et il se rend bien compte de son déficit de sommeil.
La concentration, la productivité aussi. Dans la vie de tous les jours, en fin de semaine surtout, ça se ressent et on n'a plus de motivation et c'est compliqué.
Sans parler de la santé. Le manque de sommeil augmente les risques de développer des maladies cardiovasculaires ou des troubles métaboliques.
7h36, on a commencé ce journal avec une fierté nationale. On le termine avec un collectif qui nous donne beaucoup d'espoir. L'équipe de France féminine de handball affronte cet après-midi l'Allemagne pour tenter de décrocher une place en finale du mondial. Coup d'envoi à 17h45 et c'est une équipe solide qui s'apprête à jouer malgré l'absence de nombreuses cadres, Clément Brossard.
Oui, 5 titulaires habituels manquent à l'appel et malgré cela, les Bleus championnes du monde en titre vont connaître leur 8e demi-finale internationale de suite. Le sélectionneur Sébastien Gardillou est admiratif.
On est encore en demi-finale. Je ne sais pas si les gens y mesurent ce que ça représente, cette longévité ou au moins cette capacité d'être encore en demi-finale. Il manque 900 sélections. Bravo à elle, vraiment bravo à elle.
Prochaine étape, l'Allemagne, un adversaire bien connu de cette équipe de France et de sa pivot, Pauleta Foppa.
La dernière fois qu'on les a joués, c'était aux Jeux Olympiques à la maison. Ça a été très 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 chaud. Ça s'est joué sur la fin de deuxième mi-temps.
Mais l'autre pivot, Sarah Bouktit, le sait. La France, même diminuée, sera désormais attendue.
S'ils en doutaient, je pense que tout le monde a vu qu'on avait un bon niveau et qu'on pouvait aller très loin dans cette compétition. C'est tant mieux, elles seront moins sûres d'elles quand elles arrivent sur le terrain.
Capitaine Tamara Horacek veut surfer sur un quart de finale parfaitement maîtrisé, rendant son équipe puissante.
Je ne dirais pas imbattable parce que chaque match est différent. Je sais que si on construit comme ça nos matchs, ça sera plus difficile de nous battre. Si elles nous battent, c'est que vraiment, elles ont été exceptionnelles. Moi, j'ai confiance en cette équipe-là, mais je garde les pieds sur terre et je sais que chaque match a sa vérité.
Verdict ce soir, donc, pour rêver d'une finale dimanche, soit face aux Pays-Bas, co-organisateurs du Mondial, ou la Norvège, actuelle meilleure nation au monde.
Et puis le quintet, c'est à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 11, Imperator Della. L'outsider, c'est le 10, High Propulsion.
C'était le journal des listes d'Angers, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé.
Vous l'avez sûrement vu, parce que tout le monde l'a vu en quelques jours seulement, ce petit loup, ce grand loup qui devient végétarien pour se faire des amis sur une musique de Claude François, un film d'animation, publicité pour la marque de supermarché Intermarché, et ça cartonne absolument, non seulement en France mais partout dans le monde. Bonjour Théophile Dufresne.
Et bonjour à vous.
Vous êtes le cofondateur du studio qui est derrière ce film qui a ému donc 30 millions de personnes au moment où on se parle, et ça continue à grimper. Un film 100% made in France, Cocorico. Vous nous racontez ce succès dans un instant. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce que vous aussi, vous avez été ému par la dernière pub Intermarché, ce loup qui se met à cuisiner, à devenir végétarien pour tenter de se faire accueillir par les autres animaux le soir de Noël? Film d'animation vu par plus de 30 millions de personnes dans le monde. Bonjour Théophile Dufresne.
Et bonjour.
Vive la France! C'est vous qui avez créé cette pub pour Intermarché. Votre studio, c'est Illogic Studio. Il est basé à Montpellier. Racontez-nous, vous imaginiez un tel succès mondial?
Bah écoutez, non, nous on ne s'attendait vraiment pas à de tels retours, de telles retombées. Donc quand on voit tous les commentaires en ligne, c'est vraiment fantastique. Hein. Toute l'équipe est trop contente parce qu'elle a travaillé dessus pendant des mois. Et donc de voir que le monde entier voit ce film et l'apprécie, c'est une véritable récompense.
C'est un merveilleux petit court-métrage, effectivement, qui est complètement enchanteur et qui est extrêmement joli, il faut le dire aussi. Quand vous dites que toutes les équipes, c'est qu'effectivement, c'est pas l'IA qui a fait ce très 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 beau court-métrage. Il y a des vrais humains qui ont travaillé dessus.
Alors tout à fait, non, c'est pour la partie animation, ça a impliqué plus de 60-70 artistes de notre côté. Après, le concept a été imaginé par l'agence de pub Romance avec les créatifs Victor Chevalier, Julien Bon, Alexandre Hervé. Quand ils nous ont contactés avec ce super concept, nous derrière, on a tout de suite voulu le faire à la main avec des méthodes traditionnelles, et c'est ce qui a rendu possible ce résultat.
Et effectivement, il est enchanteur parce que l'histoire est enchanteur, parce que les images sont magnifiques, parce que c'est du Claude François, parce que bref, il y avait tous les ingrédients du bonheur. C'est d'autant plus intéressant sur le plan même marketing et en termes d'image que il y a cette comparaison qui est faite, notamment par exemple avec la pub qui a été sortie à peu près au même moment, une pub pour McDo qui avait fait une publicité à l'inverse 100% IA et dont la thématique d'ailleurs était aussi beaucoup moins enchanteresse. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une sorte de vivre ensemble où on se retrouve avec tout le monde qui a envie de partager un bon repas au moment de Noël. C'est un peu l'inverse de l'état d'esprit de la pub McDo où on disait genre Noël c'est l'enfer.
Bah, écoutez, nous on est persuadés en tout cas que les machines ne remplaceront pas l'humain et que les humains ont leur sensibilité, leur dose de tendresse et d'émotion qu'ils peuvent apporter dans un projet. Et c'est vrai que tout se fédérer autour d'un projet, autour d'un repas, bah c'est aussi ce qui fait notre force en tant qu'être humain.
Et ça, c'est assez merveilleux. Il y a aussi l'idée qu'à l'international, et ça, je l'ai constaté en le regardant sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de comptes, notamment américains ou ailleurs, qui disent « mais c'est extraordinaire, vive la France et vive le bien manger ». Alors, cela dit, là-dessus, il y a aussi une question qui est qu'un loup qui mange des champignons et du poisson, c'est pas hyper réaliste. Et d'ailleurs, certains s'en agacent. Je voudrais quand même qu'on puisse accueillir Sylvain. On va pas juste dire que c'est merveilleux. Bonjour Sylvain.
Bonjour Apolline.
Sylvain, vous êtes agriculteur dans l'Allier. Et donc forcément, vous trouvez qu'un loup, ça mange aussi de la viande, quoi.
Ben, c'est le petit reproche que l'on peut apporter. Bon, tout d'abord, bravo pour ce magnifique dessin animé. Ça faut le dire, hein, faut quand même qualité, faut donner faut respecter quand même ce travail qui est vraiment magnifique. Mais alors le fait qu'on angélise encore une fois de plus le loup, ça pose quand même problème parce que il faut le rappeler que quand même au niveau national, on a quand même des problèmes, on a des problématiques avec cet animal. Et également le fait de dire que on peut le ressentir aussi comme une campagne anti-viande. C'est quand même une problématique, ça, hein, parce que un carnivore qui devient végétarien, moi je veux bien, mais la réalité n'est pas comme ça.
Théophile Dufresne.
Si je peux me permettre de réagir, là on est dans la situation d'un conte de l'enfance revisité du grand méchant loup, et le message n'est pas du tout anti-viande ou go-vegan. Hein, c'est vraiment un message de mieux manger. C'est un film sur un loup qui apprend à cuisiner des bons produits simples. Du terroir, faire des plats grand-mère, et c'est ça l'histoire de notre film.
Je dois dire que moi j'ai complètement acheté. Effectivement, j'étais quasiment au bord des larmes à la fin de votre pub, mais j'avoue que toutes les pubs Intermarché, je dois dire, me font quasiment pleurer parce que je les trouve toutes hyper émouvantes. Chaque fois, c'est vrai que c'est des très belles histoires et ça marche extrêmement bien. Une question quasi fondamentale, notamment pour la mère de famille que je suis. Tout le monde se demande s'il y aura une peluche de ce loup. Est-ce que vous savez si à un moment ou à un autre ça va être créé? Alors, et si ce sera Made in France?
Absolument pas de notre ressort. Nous, on l'espère, mais bon, ce n'est pas malheureusement entre nos mains.
Bon, on espère effectivement parce qu'il y a des centaines de milliers d'internautes qui réclament donc cette peluche du loup. Merci Théophile Dufresne et félicitations.
Merci.
Cocorico encore, le cofondateur donc de Illogic Studio, le studio d'animation derrière ce film d'animation. Bravo pour votre succès mondial. Et merci à Sylvain d'avoir témoigné. C'est important aussi qu'on entende ce point de vue-là. C'est vrai que le loup, la prochaine fois, il faudra faire une pub où il mange de la viande. Il est 7h46 sur RMC. Nos deux débatteurs sont entrés dans ce studio. C'est Cécile Duflot d'un côté, du côté gauche, vous le pensez bien, et Charles Consigny du côté droite. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Il y a cette grève qui s'annonce particulièrement suivie lundi dans les trains de Normandie. Les syndicats, ils s'opposent à l'attribution des trains régionaux à un acteur privé. Est-ce qu'il faut ouvrir à la privatisation et à la concurrence les trains? Cécile?
Eh ben non, ça ne marche pas.
Charles?
Évidemment.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Avant d'entendre nos deux débatteurs, Charles Consigny et Cécile Duflot, le bonus, Mathieu, avec une nouveauté qui va nous faire danser.
Oui, quelques notes de piano, des cuivres, ambiance un peu disco, un peu funk, des petits wow 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 derrière. Vous avez peut-être reconnu le style. Attendez, ça va être plus clair là.
C'est pour tous qui cherchent un...
Gilbert Montagnier vient de retour avec cette nouvelle chanson qui est sortie en début de semaine. Alors on a peut-être l'impression qu'il est jamais parti. Première chanson inédite en 20 ans en réalité pour Gilbert Montagnier. Je vous glisse quand même un classique au passage, hein, quand même, ça fait plaisir à tout le monde. Gilbert Montagnier, 63 ans, qui annonce pour le coup un nouvel album pour mars prochain parce qu'il en a envie, dit-il. Ça s'appellera L'amour dans les mains, 11 titres, funk, soul, balade, annonce-t-il. Je n'ai plus de pression, je ne fais plus la course au hit. En tout cas, pour patienter, vous pouvez déjà vous habituer au nouveau single, ça s'appelle Ça sert à ça.
Ça sert à ça d'écrire une chanson. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah, yeah.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h49 et comme chaque vendredi, voix de droite face à la voix de gauche, Charles Consigny, côté droit, Cécile Duflot, côté gauche. Bonjour à tous les deux. Il y a cette grève massive lundi dans les trains de Normandie. Elle s'annonce très suivie. Les syndicats, ils s'opposent à l'ouverture à la concurrence des trains régionaux. Au-delà de la question juste de la région de Normandie, la fin du monopole de la SNCF. Bonne chose, mauvaise chose, Cécile?
Eh bien, on pouvait se dire pourquoi pas. Mais en fait, quand on regarde tous les exemples à l'étranger, et même ce qui se passe en France, aucun intérêt. Ça enrichit juste les opérateurs et les cabinets qui font des cahiers d'appels d'offres.
Donc vous n'êtes pas juste contre par principe, vous êtes juste contre parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Charles?
Je suis pas sûr que ça marche pas. Je constate sur la ligne Paris-Marseille que les premiers trains de la compagnie Trenitalia remplissent leur rame. Alors certes, je sais qu'ils sont subventionnés, etc., parce que ce sont les règles européennes. Mais je pense que c'est bien aussi. Moi, je suis attaché à la SNCF. Je prends très souvent le train. Je trouve que c'est la plupart du temps tout à fait remarquable. Pas toujours dans les trains régionaux où on a assez souvent des mauvaises surprises, mais en tout cas pour les TGV. Mais justement, les trains régionaux, à mon avis, peuvent progresser. Et je pense que c'est bien que nos agents prennent conscience qu'on est dans un monde concurrentiel et que, somme toute, cette activité, elle intéresse aussi d'autres opérateurs. Et j'ai l'impression que l'expérience Trenitalia est plutôt concluante. Et en plus, je trouve ça, si on est pro-européen, on est content de voir des compagnies européennes circuler dans toute l'Europe.
Sauf que l'exemple britannique, alors là, évidemment, c'est plus difficile parce qu'il y a la manche entre les deux. Mais enfin, l'exemple britannique, c'est qu'après la privatisation, ils sont aujourd'hui en train de renationaliser des trains.
Totalement. Et la ministre des Transports a dit « Nous allons mettre fin à 30 ans d'inefficacité, de gaspillage et de frustration des passagers. » Et donc, ce que je veux dire à Charles, on partage le fait d'être très attaché au train. C'est très important et c'est un outil aussi de solidarité territoriale exceptionnel. Parce que si on mutualise l'ensemble du réseau, on fait en sorte que les gens qui habitent à Périgueux, à Vierzon, ils puissent aussi prendre le train. Et le problème de la mise en concurrence, c'est que ça se fait sur les lignes très rentables, sur Paris-Lyon. Mais là où c'est rigolo, c'est que, entre guillemets, c'est que Trenitalia, en fait, ils font des tarifs plus bas avec l'argent du contribuable italien. C'est-à-dire que c'est les impôts des Italiens qui abondent Trenitalia, qui est en déficit, pour pouvoir essayer de prendre des parts de marché. Et je vais vous dire, c'est la même logique avec les Ouigo qu'on fait circuler en Espagne de manière déficitaire. Donc en fait, le train, la logique concurrentielle sur les mêmes rails, ça ne marche pas. Ça a été essayé dans plein de pays, et dans aucun pays, même la Suède, qui ont été les pionniers, ça ne fonctionne pas.
Charles.
D'abord, le fait de subventionner, etc., oui, même les compagnies aériennes sont subventionnées. Par exemple, la compagnie Emirates, qui progresse beaucoup en ce moment, est en réalité une compagnie d'État des Émirats Arabes Unis, et qui est très largement subventionnée pour rendre le territoire attractif, etc. Donc, ça me choque pas forcément. En revanche, je constate, puisqu'on parle des trains régionaux, que les trains régionaux, il y a très souvent des problèmes. Et là, les Français vont le voir à Noël. Ils vont voir à quel point on est sous-équipé en trains régionaux. Ils vont voir leurs trains soit totalement bondés, comme c'est le cas très souvent, où on se retrouve les uns sur les autres, sans place assise, parce que les opérateurs ne mettent pas sur les rails suffisamment de trains régionaux dans ces périodes très chargées, voire même, ce qui arrive souvent, des trains annulés. Ça arrive très souvent, vous arrivez à la gare pour prendre votre TER et on vous explique que le conducteur s'est pas réveillé, parce que c'est quand même ça aussi la
ça,
réalité.
Ça vous est vraiment arrivé, ça?
Ah, bien sûr. Ah oui. Ah non, on nous donne pas la vraie raison. Quand on discute un peu, on comprend que le gars s'est pas pointé.
Donc c'est encore une histoire de fainéant, Charles.
Donc moi, oui,
ça peut vous arriver à vous, Charles.
Malheureusement, c'est un lourd problème en France, la fainéantise, et notamment dans certains secteurs qui ont besoin de la concurrence pour se donner un petit coup de fouet.
On va remettre le sujet, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que le train fonctionne bien, qu'il soit pas trop cher, qu'il soit accessible, que toutes les gares soient desservies. C'est un vrai service public, en fait. Il faut partir de ce point-là. C'est un service public. Et dans un monde où il faut réussir la transition écologique, c'est un mode de transport décarboné, donc on a besoin que le train fonctionne bien et dans les régions. Après, ce sont aujourd'hui les régions qui décident de ce qui se passe dans leur région, du nombre de trains, de la fréquence et même des tarifs. Ensuite, il y a des opérateurs. Le problème, c'est que ce qui est important pour le train, c'est que quand vous arrivez à la gare de Bordeaux et que vous voulez prendre un TER pour Périgueux, il y a une bonne correspondance. Et même que si votre train est en retard, vous puissiez prendre un autre train. Et donc de faciliter l'utilisation du train et puis, dans un certain nombre de cas, de faire baisser le prix des billets. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'en fait, on fait beaucoup d'argent sur les lignes très rentables, Paris-Marseille, Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux. Et du coup, c'est ça qui permet normalement de financer les autres petites lignes. Si on donne les lignes très rentables à des opérateurs privés, vous verrez que les trains régionaux qui vous importent, ils vont encore plus se dégrader.
Charles.
Donc une vraie mutualisation, un vrai service public, c'est ça qu'il faut pour le train.
Charles.
Moi, je suis pour mettre des trains privés sur les petites lignes, justement.
Mais il n'y en aura jamais.
On verra.
Mais non, parce que c'est pas rentable.
Exactement. On verra. Regardez dans les trains régionaux pour la Normandie, la gare Saint-Lazare, est blindé de gens, de Parisiens boboisés qui partent en week-end en Normandie.
Enfin, surtout de gens qui travaillent tous les matins. Pardon Charles, allez à la gare Saint-Lazare le matin
aussi,
et pas en scooter.
Oui,
et vous verrez que c'est essentiellement des gens qui viennent travailler.
Non, oui, mais pas que. Il y a aussi énormément... Enfin, en tout cas, c'est très utilisé. Il y a énormément de gens le week-end. Il y a une demande qui est extrêmement forte. Je pense que un peu de concurrence ne nuira pas. Et s'agissant d'une boîte dans laquelle la SNCF, on a pris des mauvaises habitudes en matière de temps de travail, des mauvaises habitudes en matière d'âge de départ en retraite. Je rappelle que les contrôleurs SNCF sont les seuls qui avaient négocié une exonération de la dernière réforme des retraites de Macron qui vient d'être suspendue par l'Assemblée nationale. Donc, il y avait quelques mauvaises habitudes. Moi, je connais pas de secteur dans lesquels la mise en concurrence n'ait pas eu quelques vertus dynamisante du secteur. Donc je pense que
éloge de la mise en concurrence de la droite.
Ça a fragilisé tous les réseaux ferroviaires. Même au Japon, ils en sont
revenus. Regardez les taxis avec Uber, par exemple.
Mais c'est pas du tout la même chose.
C'est phénoménal, la concurrence.
On parle d'énormes investissements et de
trains
qui circulent les uns derrière les autres sur des rails. Ça n'a rien à voir. Le but, c'est un bon service public. Et là où je suis d'accord, c'est qu'on peut pas considérer que c'est la SNCF qui décide de tout. C'est un service public, c'est notre propriété collective. Et c'est un service public qui doit pas oublier, notamment, tout un pan du territoire, et je pense en particulier au Massif Central.
Merci Cécile Duflot. Le Massif Central dont vous parlez, effectivement, cette ligne qui devait être directe, notamment entre Lyon et Bordeaux, qui finalement passera par Paris.
Et qu'est-ce qu'on fait de Périgueux, de Limoges, de
Clermont-Ferrand ? Qui soigneusement évitera le Massif Central, qui est vraiment le délaissé. Pardon, je rajoute mon petit grain de sel, mais vraiment c'est un vrai coup de gueule que j'ai ce matin. Cécile Duflot, Charles Consigny, merci à tous les deux. Le débat du vendredi. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant à la une du journal de 8h. Ces 200 bovins de la ferme de l'Ariège vont-ils être abattus ce matin malgré la mobilisation des agriculteurs ? La nuit a été extrêmement dure dans l'Ariège et on sera sur place dès le début de ce journal. Et puis dans un instant, la météo, douceur et grisaille. Notez dès à présent qu'à 8h25, le face-à-face, mon invité, ce sera le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et puis n'oubliez pas, c'est bientôt Noël, si vous voulez participer et gagner le cadeau du calendrier de l'Avance, il est toujours temps d'envoyer Noël au 732-16. Noël au 732-16, le gagnant sera en direct avec moi dans 20 minutes, 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. On est vendredi, mais on est ensemble et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur ce matin. Action en cours à Agen, comme hier près de Toulouse et Narbonne, en plus du face-à-face tendu dans l'Ariège où des éleveurs tentaient d'empêcher l'abattage d'un troupeau entier pour un seul cas de dermatose nodulaire, cette maladie qui touche les vaches en ce moment, on va largement y revenir. Vous allez entendre la colère ce matin sur RMC du président de la région Centre-Val de Loire au lendemain de la liquidation de Brandt, le dernier fabricant d'électroménager français. Et puis une question, Karim Benzema a-t-il réellement des chances de revenir en équipe de France ? Il ouvre la porte à un retour ce matin dans la presse.
Les agriculteurs continuent de se mobiliser ce matin contre les abattages de troupeaux.
À cause de cette maladie, la dermatose nodulaire, maladie contagieuse qui touche les élevages depuis des semaines, elle n'est pas transmissible à l'homme. Mais la consigne des autorités, quand il y a un cas, un seul cas, c'est d'abattre le troupeau entier. Les agriculteurs estiment donc que c'est disproportionné. Voilà pourquoi ils se mobilisent depuis le milieu de la semaine en Ariège. On va y revenir et le mouvement fait tache d'huile parce que en soutien, des opérations sont menées depuis hier près de Toulouse, près de Narbonne, à Saint-Gaudens, près de Tarbes aussi, en Lozère. Ou ici ce matin à Agen, des bottes de paille et du fumier déversés devant les grilles de la préfecture, comme nous le dit José Pérez, le président de la CR47, la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne.
Ça va être le départ de nouvelles manifestations. Alors peut-être lundi, peut-être début d'année, et on va choisir le bon créneau. Mais je le vois partout, nationalement, ça bouge. Hein. Tous les agriculteurs sont à bout. Et il faut vraiment que le gouvernement s'en rende réellement compte et qu'on nous laisse travailler, vraiment. Donc, on a décidé de faire une action un peu coup de poing, pour leur dire, écoutez, on n'a plus besoin de vous. Maintenant, vous nous laissez tranquille. On va se démerder par nous-mêmes. Vu que vous êtes capable de rien faire dans ce pays, faites un moratoire sur toutes les réglementations françaises. Et nous, on va se démerder à produire et à vendre notre production.
Alors, c'est en soutien à cette mobilisation depuis mercredi en Ariège. Ce qui se passe autour d'une ferme pour un seul cas de dermatose nodulaire, c'est tout un troupeau de 200 vaches qui doit être abattu. Il y a eu un face-à-face tendu jusqu'à tard hier soir. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place tout autour de cette ferme pour RMC. En fait, les agriculteurs encerclaient la ferme jusqu'à hier soir pour empêcher les abattages. Ils ont été délogés et ce matin, ce sont les forces de l'ordre qui encerclent les lieux.
Oui, c'est ça. Un blindé de la gendarmerie bloque l'accès à la propriété depuis le milieu de la nuit. Juste derrière, il y a un important dispositif de garde mobile. Il n'y a plus d'opposants sur le site. Ils ont été dispersés hier soir par les forces de l'ordre. On va entrer maintenant ce matin dans la phase 2 de l'opération. La préfecture de l'Ariège affirme que les deux éleveurs ont donné leur accord pour l'abattage, ce que démentent de façon catégorique certaines organisations syndicales agricoles. La préfecture de l'Ariège je refuse de dire quand l'opération va pouvoir débuter. Ce sont des vétérinaires des services départementaux qui vont procéder à cette opération d'abattage avec au préalable l'endormissement des bêtes. Au total, ce sont 208 vaches de ce cheptel qui sont concernées. On ne sait pas si les deux propriétaires, les deux éleveurs vont assister avec leur famille, avec leurs enfants, petits-enfants à cette opération qui forcément pour eux sera difficile à vivre et cruelle.
Et je précise, hein, Jean-Wilfried Forquès pour RMC, que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce ce matin 4 interpellations en Ariège, donc après le face-à-face et la colère qu'on a pu voir hier soir autour de cette ferme. La colère aussi ce matin sur RMC du président de la région Centre-Val de Loire. Vous savez qu'on est au lendemain de la liquidation judiciaire de Brandt, dernier fabricant français d'électroménager. 700 emplois, 2 usines près de Vendôme et Orléans, donc qui vont fermer. En fait, d'après un document que RMC s'est procuré, la justice ne croit pas du tout au projet de reprise par les salariés, la fameuse SCOP, estimant que ce projet est voué à l'échec et, je cite, hein, le simple prolongement d'une activité déjà condamnée. Écoutez ce qu'en dit donc ce matin sur RMC le président de cette région, François Bonneau.
Cette entreprise avait fait la preuve sur les 2 dernières années qu'elle était revenue à l'équilibre. Certes, elle avait des dettes, mais nous étions engagés dans un processus qui permettait de gommer ces dettes. C'est une décision qui est finalement une décision du renoncement, c'est clair, une décision de l'abandon et une décision du sacrifice. Et ça, c'est inacceptable. Et je considère que si nous continuons ainsi, la France industrie est complètement morte. Ce sont des marques qui sont emblématiques. Demain, elles vont être produites en Chine et on ira acheter des produits chinois.
Il est 8h04 sur RMC et je reçois dans une dizaine de minutes le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour dresser un premier bilan, notamment de ces fouilles XXL en prison.
Oui, fouilles qui ont commencé fin novembre et qui ont été menées dans une cinquantaine de prisons, comme hier soir à Meaux, en Seine-et-Marne. Constance Bostoen y a assisté pour RMC. Vous allez entendre donc le bilan. Une centaine de cellules inspectées, de la drogue et une vingtaine de téléphones retrouvés.
Après l'extraction des détenus vers la cour de promenade, chaque centimètre carré des cellules de la prison de Meaux est minutieusement fouillé par les agents pénitentiaires.
On va déjà récupérer tout ce qui est électronique et après on va vérifier les vêtements, les cantines, tout ce qui est oreiller, draps, tout ça, tout est passé au crible.
Car ici, les détenus rivalisent d'ingéniosité pour conserver des objets interdits comme des stupéfiants, des armes ou encore des portables.
Ils peuvent creuser des meubles, des fois ils creusent sur des frigos.
Et justement, au bout d'une heure de fouille, dissimulé dans un plateau de cantine en plastique.
Découvert dans une cellule d'une cache derrière un plateau. Ils utilisent un plateau avec un bout de plastique et le téléphone, il est au milieu.
2 étages plus haut, 2 équipes cynophiles s'activent. Et dans une cellule, le Malinois s'arrête. La prise est belle, 8 grammes de stupéfiants camouflés dans une tête d'oreiller. Pour permettre ces fouilles d'envergure, les équipes sont aussi accompagnées des Eros, des agents pénitentiaires équipés spécialement pour la détection des objets électroniques, car le besoin est bien réel, selon Dimitri Bénard, le chef d'établissement de la prison de Meaux.
Téléphone portable, il y en a beaucoup en détention. Hein. On en trouve, nous, sur le CP de Meaux, environ 1200 par an.
Après les fouilles place au temps judiciaire, une enquête sera ouverte par le parquet de Meaux pour chaque objet saisi lors de l'opération.
La suite des réquisitions aujourd'hui au procès du docteur Péchier, l'ex-anesthésiste jugé depuis 3 mois aux assises de Besançon, accusé, vous savez, d'avoir empoisonné 30 patients. Il encourt la réclusion à perpétuité, décrit par l'accusation comme un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. Image impressionnante à La Ciotat, près de Marseille, où une voiture a fini au fond de la piscine municipale hier soir. La conductrice, en fait, a fait une fausse manœuvre. Une mère et sa fille de 5 ans qui ont pu être secourues, une extrémiste par les maîtres nageurs, raconte ce matin le journal La Provence, avec l'image donc de cette voiture portière ouverte au fond du bassin. Question ce matin, et vous, si vous étiez Didier Deschamps, est-ce que vous rappelleriez Karim Benzema en équipe de France? L'attaquant de 37 ans, aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui ouvre la porte à un retour ce matin dans le journal L'Équipe avec l'idée de disputer la Coupe du Monde de l'année prochaine. Si on m'appelle, je viens. Voilà ce que dit Benzema. Pierre Thévenet pour RMC, ça semble compliqué quand même, non?
Oui, difficile d'envisager un retour en bleu de Karim Benzema. À 37 ans, l'attaquant évolue depuis 2 saisons en Arabie Saoudite. Son retour renforcerait-il vraiment l'armada offensive des Bleus? Le champion du monde 98 et consultant football RMC, Lionel Charbonnier, n'en est pas certain.
Il y a déjà 3 ans de plus. Il est plus dans le même championnat. Je pense qu'il en a pas besoin. Mais à 300%, moi, je pense qu'il ne le reprendra pas. C'est mort.
Son potentiel retour est aussi et surtout compliqué par sa relation conflictuelle avec Didier Deschamps, notamment depuis la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur a entendu le message de Karim Benzema, mais depuis sa retraite internationale, un nouveau projet a été mis en place. Pour Jérôme Roten, consultant football RMC Sport, les deux hommes sont irréconciliables.
Je crois qu'il s'est passé des choses qui dépassent même le cadre sportif avec Didier Deschamps, et Didier a d'autres chats à fouetter dans son groupe, et en aucun cas je vois Didier Deschamps changer son fusil d'épaule.
Si la présence du Ballon d'Or 2022 dès la Coupe du Monde 2026 est difficile à envisager, après la compétition, l'arrivée potentielle à la tête des Bleus de Zinedine Zidane, son entraîneur au Real Madrid pendant 4 saisons, pourrait peut-être changer la donne.
Et c'est le dernier carré au Mondial féminin de handball. C'est à 17h45, notez l'horaire que la France va jouer contre l'Allemagne en demi-finale.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. Et Mathieu, vous avez de nombreux messages des internautes ce matin.
Cette pub Intermarché
cette
qui vous
pub
a
ému. Qui m'a ému.
Apo, et bien Françoise est pareil. J'adore les pubs Intermarché. Elles sont magnifiques et tellement douces, drôles et tendres. Ça fait du bien. C'est rare que vous réagissiez autant à une pub. Sylvie nous écrit, toutes les pubs Intermarché sont top. Ce sont des génies, ces mecs, tellement différents de la bouillie des autres publicitaires. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez. Si vous l'avez vu déjà, comme beaucoup, j'imagine, ce loup qui devient végétarien pour pouvoir passer les fêtes de Noël avec ses amis. Autre succès français international, ce jeu vidéo multiprimé cette nuit aux awards du jeu vidéo aux États-Unis. Et Bruno y a joué. J'ai fini Clair Obscur, Expédition 33, c'est le nom du jeu. Un très bon moment de jeu vidéo, graphiquement, musicalement, l'histoire est bien, pleine de rebondissements. La fin surprenante, ça mérite cette récompense. Et Hackman nous dit, j'ai pleuré, il m'a fait pleurer, plus que beau, déchirant, chef d'œuvre absolu. Et j'ai 40 ans de jeu vidéo derrière moi. Voilà ce que dit Hackman ce matin sur le WhatsApp RMC.
Oh, vive la France!
Positif un peu.
Ah ouais, c'est extra. Il est 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint. L'invité du face-à-face, notez-le également, qui commencera à 8h25 ce matin. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et puis juste après, Nicolas Canteloup, évidemment, comme chaque semaine. La semaine face à Canteloup, ce sera à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de manche.
Hola, il est 8h13 et c'est Arnaud Demange qui vient d'entrer dans ce studio.
Bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour, joyeux Noël.
Oh oui.
Car Noël approche. Découvrons aujourd'hui ce qui se cache dans notre calendrier de l'Avent du LOL. Et c'est une boule de chocolat fondu. Parce que cette semaine, il a fait 10 degrés de plus que les normales de saison. Alors, sur les marchés de Noël, les commerçants font la gueule. Ils vendent plus de vin chaud, plus les clients sont là. Je vais vous prendre un mojito et un Mr Freeze pour la petite. Vous pouvez nous mettre un parasol et un cendrier. Maman, comment il va faire le Père Noël pour venir en traîneau sur la neige s'il fait 20 degrés? Eh ben, demande à tonton, il croit pas au réchauffement climatique, tu te démerdes avec lui. Allez les enfants, Kylie Noé, Caramelia, la foutine à elle. Venez m'aider à décorer le cocotier de Noël. Oui, parce que les enfants ont des prénoms très originaux. Oui. Non, les parents sont crevés, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pour ça, actu, transition, attention, c'est pour ça que le député LFI Émeric Caron a proposé cette semaine un congé parental de 5 ans. C'est vrai, hein. Apolline, vous avez 4 enfants. Si Émeric Caron avait été président, vous seriez encore en congé mat. 20 ans de congé mat. 4 fois 5 ans. Ça fait moins d'interview, hein. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais je connais des gens qui en ont. Ma propre mère, déjà.
Ouais. Par exemple.
Mais aussi des amis. Je suis pas sûr qu'ils soient ravis qu'on leur annonce, tu vas être enfermé non-stop 5 ans avec tes enfants. 5 ans de maman! Maman! Quel enfer. Déjà 2 mois de confinement, non. Ils étaient en PLS. Et Émeric Caron propose ici la semaine de travail de 15 heures. Bon, à ce compte-là, je vois pas pourquoi on va pas au bout de l'idée, quoi. Arrêtons de bosser, tout simplement.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Faudra quand même faire du tri dans les métiers, hein. Médecin de village, hein, 15 heures par semaine.
Bon, ça va améliorer le système de retraite, c'est sûr. Mais chirurgien, t'as des opérations qui durent 20 heures. Le toubib, il va pas laisser le gars ouvert en deux tout le week-end. C'est un coup, est-ce que des mouches rentrent dedans et tout. C'est pas hygiénique, c'est pas bien de faire ça.
Non, j'aime pas beaucoup. Wesh, masculinisme, conclave font partie des 10 mots les plus recherchés désormais sur Internet, selon le Robert.
Oui, le dictionnaire. Hein. Pas le Robert qui est en bas de chez moi, qui est le pilier de comptoir du PMU. Lui, il dira jamais wesh, tu me remets un Ricard et après on va faire un conclave avec Bertrand et Daniel pour savoir sur qui on mise à l'autofoot. Le mot conclave a été très recherché après la mort de François, le pape, pas François Bayrou, parce que lui, il est juste mort politiquement après son conclave. Physiquement, il est toujours à peu près en vie. Je dis à peu près parce qu'on sait pas trop, en fait. Comme il a l'élocution d'un mec qui vient de faire un AVC, on sait pas, ça va François? Je vais bien.
Ah bon, bah écoutez, tant mieux.
Et donc, wesh, dans le top 10. Mais alors là, je vois pas les jeunes faire cette recherche Google. Donc à mon avis, c'est les retraités qui jouent au Scrabble qui sont là. Bon alors, en utilisant le W du Dawa de Georgette, je fais wesh 54 points mot contre triple. Alors t'as pas le seum de t'être fait ken par mon wesh? À moi la boulaga, Georgette.
La proposition du RN de rouvrir les maisons closes continue de faire débat.
Déjà que la France est en bordel, autant les rouvrir. Hein. Alors, Marine Le Pen soutient cette loi et c'est un retour aux sources pour elle. Souvenez-vous, son parrain, c'était Henri Bottet, alias Monsieur Éric, l'empereur de Pigalle, aussi surnommé Razmot. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, Jean-Marie Le Pen avait nommé parrain de Marine Le Pen le plus grand proxénète des années 70. Quelle drôle d'idée. Un catholique pratiquant, vive la messe en latin, mais il prend pour parrain le roi des macros qui règne sur 2000 prostituées et qui a des copains braqueurs de banque. C'est vraiment comme Bolloré qui programme des émissions chrétiennes et juste derrière, il fout Jean-Marc Morandini qui a plus le droit d'approcher d'un mineur. Allez, souvenir à moi les pistagères. La pauvre Marine. Allez Marine, on va voir parrain. Et Zou, il emmène sa fille de 4 ans au Sixi Ploum Ploum. Elle se balade au milieu de gens tout nus qui disent « Oh, monsieur le secrétaire d'État, ça faisait longtemps !» Et elle voit des vieux énarques chauves et torse nus en caleçon rayé avec des fixes chaussettes comme dans Tintin. Et des filles seins nus avec des plumes d'autruche. Non mais Apolline, vous auriez pas emmené vos enfants de 6 ans au cabaret du nichon qui fume ou au Ploum Ploum Sexy de Pigalle? Pas ceci dit, si vous voulez, pensez-y pour le week-end, hein, c'est une activité sympa.
Tout à fait, nous sommes vendredi. Mais oui, des belles activités. Merci beaucoup Arnaud, qu'on retrouve tous les jours, mais aussi en podcast et en tournée, tiens, partout en France avec un nouveau spectacle. Ce sera à Lyon, à Toulon, à Hyères, à Bordeaux, à Rouen et partout ailleurs avec RMC. Il est 8h17 et c'est l'heure du gagnant du jeu.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Ce It's Time, chaque jour, me surprend. À 8h17, c'est Caroline qui a gagné. Bonjour Caroline.
Bonjour Apolline.
Caroline, conductrice poids lourd. Vous êtes au volant, hein?
Oui, voilà, je suis en coupure, c'est bon.
Sacré nana, dis donc Caroline. Caroline dans la région de Haute-Garonne. Déjà, j'aime Caroline. Alors maintenant, on va ouvrir ensemble la case. Alors, on est quel jour? Je sais jamais. Oui, 12. Alors, on est le 12. Attention Caroline, vous êtes prête?
Oui, allez-y.
Vous venez de gagner 1000 euros.
Oh, c'est super.
Vous venez de gagner 1000 euros.
Ah,
1000 euros cash. J'ai le chèque entre les mains. Caroline, félicitations.
Merci beaucoup.
Vous êtes où là, Caroline?
À Carcassonne
en plus. On a envie d'être avec vous dans le camion. Caroline, je vous souhaite une très belle journée. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il répond à mes questions. Il vient défendre son futur projet de loi pour, je cite, une justice plus ferme. Et puis la réponse aussi sur le narcotrafic et même sur le budget. Parce que Gérald Darmanin, au fond, c'est le dernier poids lourd politique de ce gouvernement. Gérald Darmanin, donc, face à mes questions dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
C'est le retour de la colère agricole en Ariège notamment, où des affrontements ont éclaté hier soir à Bordes-sur-Arize entre gendarmes et éleveurs. Ils étaient environ 500 à tenter d'empêcher l'abattage de tout un troupeau contaminé en partie seulement par la dermatose nodulaire. 4 d'entre eux ont été interpellés, annonce ce matin du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle de la ferme, mais d'ores et déjà le syndicat agricole Coordination Rurale prévient que d'autres actions vont suivre. Une décision de justice qui fait beaucoup réagir, le placement en liquidation judiciaire du fleuron tricolore Brandt, dont le projet de reprise par ses salariés n'a pas été retenu, trop dangereux selon le jugement qu'RMC s'est procuré. Les 700 salariés de la marque d'électroménager comme Renault se retrouvent donc au chômage.
Noël 2025, oui, malheureusement, il ne sera pas comme les autres années.
quand on passe 40 ans de notre vie dans notre entreprise, c'est compliqué. Il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls à la veille de Noël. Oui, c'est une grosse, grosse émission. C'est compliqué, c'est compliqué. Et là, je pense que dans les jours à venir, on va avoir... la retombée de tout ça, et ouais, ça va être compliqué. Il va falloir être solide et rebondir, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais oui, c'est compliqué.
Et puis quand même une bonne nouvelle, ce matin, au Panthéon des monuments français vient de s'ajouter le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 qui repart de Los Angeles avec 9 statuettes des Game Awards, les Oscars du gaming et notamment le très convoité titre de jeu de l'année. C'est la première fois qu'un studio tricolore le décroche. On ne l'avait pas vu venir, l'appel du pied de Karim Benzema pour revenir en équipe de France. Le Ballon d'Or ouvre la porte dans une interview ce matin accordée à nos confrères de l'équipe. Et puis les Bleus du Hand affrontent cet après-midi l'Allemagne pour tenter de décrocher une place en finale du mondial. Coup d'envoi à 17h45, à vivre évidemment, vous le savez, sur RMC.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il viendra d'abord développer son nouveau projet de loi. Il veut une justice plus ferme. Et puis, premier bilan des fouilles XXL, lutte contre le narcotrafic. De très nombreuses questions à poser à Gérald Darmanin, dernier ministre poids lourd de ce gouvernement. À tout de suite. Et c'est l'heure du face-à-face. Il est arrivé à l'instant. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous êtes le garde des Sceaux, ministre de la Justice. De très nombreuses questions à vous poser parce qu'en plus, votre parole est de plus en plus rare désormais. Vous vous faites discret sur les questions politiques, mais là, il y a vraiment du boulot et notamment sur le front de la justice pénale. Vous venez notamment détailler votre projet de loi. Je cite le titre de votre projet de loi. Un projet de loi visant à assurer une sanction utile, rapide et effective. En gros, une justice plus ferme. Est-ce que ça veut dire qu'en creux, vous reconnaissez qu'aujourd'hui, les sanctions ne sont ni utiles, ni rapides, ni effectives ?
Alors, la justice est lente et c'est, je pense, la grande injustice de notre pays. Le temps trop important que la victime, que l'accusé attend, que la société attend pour la sanction. Ça, c'est sûr. Et cette lenteur de la justice, ça vaut dans la justice pénale, ça vaut aussi dans la justice civile. On attend trop souvent son divorce, sa garde de ses enfants, la tutelle, son problème immobilier qu'on doit régler. Est-ce que la justice est efficace ? Elle l'est en partie, mais elle l'est pas totalement. La moitié des peines de prison prononcées par les tribunaux, les gens ne vont pas une seule journée en prison. Est-ce que c'est efficace de prononcer des peines de prison qu'on ne fait jamais ? Autant ne pas les prononcer et faire celles que l'on prononce. Et puis, est-ce que c'est utile ? Il y a 70% de récidives dans notre pays. Quand les détenus sortent de prison, ils récidivent 7 fois sur 10. Ça montre que notre système n'est pas efficace.
Quand je vous écoute, c'est un constat terrible.
C'est un constat terrible parce que la justice est très important pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça cimente évidemment la démocratie, ça nourrit le populisme que de voir une justice inefficace. Je constate malheureusement que tous les pays européens ont les mêmes difficultés parce que nous avons basé notre système de justice sur le fait qu'il fallait être très récidiviste pour pouvoir être sanctionné lourdement.
Au fond, ça laissait entendre qu'on pouvait, pendant un temps relativement long, agir impunément.
En tout cas, sans que les sanctions ne soient ni rapides ni dissuasives. Et donc, les gens qui vont en prison, l'immense majorité des gens qui vont en prison, ce sont des gens qui ont commis beaucoup, beaucoup d'actes. Et alors là, les policiers, les gendarmes disent « on arrête les personnes et ils vont jamais en prison ». Vous connaissez cette formule, j'étais mis à l'intérieur, je l'ai constaté, je l'ai vu. On a des juges, des magistrats qui disent « mais alors moi, j'ai quelqu'un qui est très récidiviste, qui a déjà des addictions, de la drogue et d'alcool, qui est déjà très désocialisé. À quoi ça sert que je mette en prison ? Ça va pas arranger sa socialisation. S'il a des maladies psychiatriques, il devrait pas aller en prison, devrait aller ailleurs. »
Ça veut dire que les juges s'auto-censurent ?
Non, ça veut dire que les magistrats ont malheureusement un code pénal qui ne les aide pas. Par exemple, dans le code pénal, il est écrit que une peine c'est égal à 6 mois de prison et autant d'amende. Et il y a dans le même code pénal un article qui dit qu'à 6 mois de prison, on fait pas de prison. Il y a un aménagement de peine obligatoire.
Donc tout ça est totalement contradictoire.
C'est absurde. Il y a des dispositions législatives qui ont été rajoutées au fil du temps qui sont absurdes. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des personnes qui sont condamnées à moins d'un an de prison ne font pas du tout de prison. Alors le projet de loi que je porte...
Ça va changer ?
Exactement. Il met fin à l'aménagement de peine obligatoire. Le juge pourra prononcer des courtes peines, comme c'est le cas dans d'autres pays, je pense notamment aux Pays-Bas ou en Angleterre. Les courtes peines, c'est quoi ? C'est des peines d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de prison. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de la peine. Ce qui compte, c'est la certitude de la peine. C'est d'être certain qu'au premier ou au deuxième fait, en tout cas après un carton jaune, il doit y avoir un carton rouge, on puisse avoir une sanction claire, rapide, qui montre à la victime, à l'accusé, à la société que la justice fait quelque chose.
Donc création de courtes peines, voire d'ultra courtes peines, c'est-à-dire que vous preniez l'exemple de la Hollande, en Hollande on peut même aller pour quelques jours en prison.
Alors on laissera le juge totalement libre de fixer la peine qu'il doit fixer, et donc en effet il peut y avoir des peines d'un mois, aujourd'hui elles sont interdites dans le code pénal, c'est tout à fait possible, on va adapter notre immobilier carcéral, nos prisons à ça, on va pas envoyer des gens qui font deux mois de prison dans les maisons d'arrêt classiques qui sont déjà surpeuplées, on aura l'occasion d'en reparler, mais oui il y aura des courtes peines possibles prononcées par le juge.
Peine obligatoire pour chaque condamnation, c'est-à-dire que chaque condamnation il y aura une peine. Parce que parfois, aujourd'hui, on peut être condamné sans qu'il y ait vraiment de peine à proprement parler.
Vous avez tout à fait raison. Ce n'est que quelques centaines de cas par an. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'il n'y a aucune peine. Mais parfois, la peine n'est pas du tout proportionnée à la difficulté que nous connaissons. Et donc, il y a notamment dans le texte de loi que je propose, quelque chose de très nouveau, qui est une peine minimale. C'est pas la peine plancher. La peine plancher, c'était une peine qu'on appliquait quand il y avait récidive. Là, c'est une peine minimale, y compris au premier fait. Et en l'occurrence, la première peine minimale qu'on propose, c'est tous ceux qui attaquent les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, les agents pénitentiaires, les magistrats, tous ceux qui représentent l'autorité. Et ben, par exemple, c'est une peine minimale. La proposition que je fais dans le texte de loi, c'est d'1 an de prison. Donc, il y aura une peine maximale et une peine minimale. Et le juge y fixera entre cette peine minimale et maximale.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'aménagements pour un certain nombre de profils de personnes condamnées, notamment pour les OQTF. Est-ce que demain vous vous dites il faut quelque chose de spécifique là-dessus? Est-ce que vos premières expériences à la fois d'abord pendant longtemps au ministère de l'Intérieur et aujourd'hui à la justice, vous dites il y a un problème là et qu'il faut le régler?
Alors aujourd'hui, il y a 25% d'étrangers dans nos prisons et une partie de ces étrangers doivent partir de nos prisons pour purger leur peine dans leur pays d'origine. Alors nous avons beaucoup augmenté depuis le début de l'année, j'ai augmenté de quasiment 100% les expulsions des étrangers qui sont dans nos prisons. Il y a une partie d'Européens et il y a trois quarts qui ne sont pas Européens. Et puis ensuite, il y avait dans notre code, en effet, des choses un peu bizarres. Par exemple, des aménagements de peine, donc des sorties de prison possibles pour réinsertion. Ça peut très bien se comprendre pour des détenus qui trouvent un travail, qui retrouvent leur famille et qui ont un projet de vie, qui doivent sortir de la prison pour se réinsérer. Il faut que nous le fassions. La réinsertion, c'est très important. Simplement, quelqu'un qui est sous OQTF, qui ne devrait pas être sur notre territoire national.
Non, mais attendez, vous êtes en train de me dire que ça s'appliquait aux OQTF?
Exactement. Dans la loi, aujourd'hui, les agents pénitentiaires, les magistrats sont obligés d'appliquer la loi, qui était mal écrite, c'est tout, c'est comme ça, il faut la changer, c'est pas de leur faute, faisaient des aménagements de peine pour des OQTF. Alors que ces aménagements de peine, la seule aménagement de peine possible pour un OQTF, c'est qu'ils soient expulsés. Moi, je suis d'accord pour que les OQTF sortent de prison s'ils sont expulsés dans leur pays d'origine. Oui. Mais pas pour retrouver un travail ou pour retrouver une famille qu'ils ne devraient pas retrouver, puisqu'ils sont étrangers en situation irrégulière et qu'ils ont été condamnés.
Vous venez de dire, Gérald Darmanin, qu'il y avait 25% d'étrangers dans nos prisons, dont les trois quarts de ces étrangers extra-européens. Exact. Est-ce que, comme certains, vous estimez qu'il y a une relation entre immigration et délinquance?
Ah, il y a une partie de relation entre immigration et délinquance. Tous les étrangers, évidemment, ne sont pas délinquants. L'immense majorité d'entre eux respectent notre pays, travaillent, envoient leurs enfants à l'école, veulent mieux vivre. Mais les étrangers sont surreprésentés dans la délinquance française. Ça, j'ai non seulement été ministre de l'Intérieur, mais j'ai été maire et le maire de ma commune et même citoyen. Le citoyen voit bien qu'il y a par une mauvaise intégration, par des difficultés extrêmement fortes qui sont liées parfois à la pauvreté, parfois au trafic de drogue, parfois au trafic d'êtres humains. Les étrangers sont plus auteurs que les autres d'actes de délinquance, ils sont aussi plus victimes que les autres d'actes de délinquance. Par exemple, les femmes étrangères sont plus victimes de violences que les femmes qui sont françaises, même s'il y a beaucoup de femmes françaises qui sont victimes de violences. Donc oui, il y a un certain lien qu'il faut combattre, et notamment par une immigration beaucoup mieux contrôlée et beaucoup mieux intégrée, et surtout une justice plus ferme avec les étrangers qui commettent des actes de délinquance.
Une justice plus ferme, on va revenir aussi à la question du narcotrafic. Vous voulez que le régime contre les narcotrafics soit proche de celui des terroristes, mais vous avez évoqué la question des lieux dans lesquels ces gens sont incarcérés. Et récemment, il y a eu aussi la question de ce qu'il se passe à l'intérieur des prisons. Est-ce que ces prisons sont désormais des états de non-droit? Je voudrais que vous puissiez regarder ce document, je vais le commenter évidemment pour ceux qui nous écoutent sur RMC, cette vidéo que BFM TV s'est procurée. Elle a été tournée le 9 novembre dernier. C'est une scène d'une violence inouïe qui se passe au sein de la prison de Nantes. On y voit un détenu entièrement nu, ensanglantés, traînés sur le bitume de la cour intérieure de la prison. En réalité, c'était deux groupes de détenus qui se battaient lors d'une promenade. Et pourtant, aucun gardien n'est intervenu parce qu'ils ont considéré que c'était trop dangereux. Quand les gardiens eux-mêmes ne peuvent même plus intervenir, alors qu'on est au sein d'un lieu qui est un lieu normalement dans lequel on fait régner la loi.
Oui, il faut rétablir l'ordre dans nos prisons, c'est incontestable et ça fait 11 mois que je suis ministre de la Justice et que j'essaye de le faire et je pense avec une certaine réussite. D'abord les prisons de haute sécurité qu'on a construites en 5 mois. En 5 mois, on a su faire en France des prisons que d'ailleurs les étrangers viennent visiter, qui montrent qu'il n'y a pas de téléphone portable, pas de drogue, pas de clé USB pour les gens les plus dangereux. Ceux qui sont capables de s'évader, de commander des assassinats et notamment une grande partie des narcotrafiquants à la suite de l'affaire Amra. Moi, je veux regarder les victimes de l'affaire Amra dans les yeux et leur dire que je peux faire, j'ai fait des choses pour la sécurité des agents pénitentiaires et des Français. Mais il y a tout le reste, toutes les autres prisons où on sait que le téléphone portable, le shit, des couteaux par drone, par le parloir, par corruption aussi, rentrent. Là, nous faisons des fouilles en ce moment qui n'avaient jamais été faites de cette ampleur dans les prisons. On a 80 fouilles. On a encore une centaine de prisons à fouiller.
Ces fameuses fouilles XXL, j'y reviens dans un instant, mais sur ces images, quand vous les avez découvertes, j'imagine que vous les aviez avant que nous, à BFM TV, nous ne les ayons. Mais elles sont saisissantes parce qu'on se dit, au fond, ça c'est au sein d'une prison si les gardiens eux-mêmes ne peuvent pas intervenir.
Elles ne me surprennent pas vraiment puisque c'est le cocktail affreux de il manque des agents pénitentiaires. Moi, j'en rajoute 1000 au prochain budget. Il manque 4000 agents pénitentiaires dans nos prisons. Donc, c'est des gens très courageux, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc, moi, je les comprends très bien qu'ils aient aussi parfois peur. Et moi, je veux les soutenir. Et l'année prochaine, il y a 1000 agents supplémentaires de plus.
S'il est voté. Enfin, ça, j'y reviendrai.
Mais moi, je crois que, vous voyez, devant les difficultés que notre pays a, on ne peut pas se priver de policiers, de gendarmes, d'agents pénitentiaires ou de magistrats. L'année prochaine, il y a 1000 agents supplémentaires de plus. Nous construisons désormais 3000 places de prison par an. On a repris la reconstruction de places de prison qui avait été en partie arrêtée et nous manquons de places de prison en France. Il y a 86 000 détenus, 65 000 places grosso modo. Et troisièmement, il y a dans nos prisons beaucoup de gens qui ne devraient pas y être non plus. C'est-à-dire, je pense aux gens qui sont atteints psychiatriquement. 25% des détenus ont des maladies psychiatriques.
Avant même de rentrer ou
avant même
qu'ils
de rentrer.
Une fois qu'ils sont
évidemment,
rentrés.
Une fois qu'ils sont en prison, une cellule de 9 mètres carrés n'arrange pas votre pathologie. Mais 25% des gens qui sont emprisonnés sont touchés par une maladie psychiatrique. Ils ne devraient pas y être. Ils devraient être en hôpital psychiatrique. Et donc, les agents pénitentiaires, la prison, gèrent toutes les difficultés de la France en pire. L'analphabétisation, les addictions à la drogue et à l'alcool, très importantes. Et des maladies psychiatriques ou une mauvaise intégration des étrangers.
Vous venez de parler de ces fouilles. BFM TV et RMC ont d'ailleurs pu assister ces derniers jours à un certain nombre de ces fouilles. Fouilles objectif zéro portable. Ça a duré encore cette nuit. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous faire de ce que vous avez trouvé dans ces cellules ?
Oui, donc sur ces grandes fouilles que nous organisons avec des centaines d'agents de la police, la gendarmerie, les douanes que je remercie, avec des chiens qui viennent regarder si on trouve des téléphones portables ou de l'argent ou de la drogue. Sur les 80 premières prisons que nous avons fouillées, il y en a à peu près 200 en France, on a trouvé 1100 portables, quasiment 10 kilos de drogue et à peu près 1500 objets interdits. Je pense à des couteaux, par exemple, ou à des objets électroniques. Hein. J'ai vu à la prison de Nanterre, de mes yeux vus, parce que je participe la nuit avec une partie des agents pénitentiaires à ces fouilles, des lunettes connectées, par exemple.
Lunettes connectées.
Exactement. Donc, en fait, on voit bien.
Comment ça rentre ?
Bah, ça rentre de partout. Ça rentre parce qu'il y a des drones qui viennent livrer des colis. Ça rentre parce que il y a ce qu'on appelle des projections. Ceux qui habitent près des prisons voient qu'on lance parfois des choses à travers les murs. Ça rentre par le parloir, parfois par les familles. Ça rentre par aussi la corruption d'agents pénitentiaires, ça peut arriver. Et donc, on voit bien qu'on a laissé faire des choses.
Vous bon, avez moi, je dit suis deux là pour... fois le mot corruption, j'y reviendrai, mais Gérald Darmanin, quand vous dites sur ces saisies donc, de portables, de drogue, il y a aussi le sentiment qu'il y a une forme de provocation. Et donc, s'il y a provocation, il y a sentiment d'impunité. Il y a 10 jours, il y a eu 2 détenus qui s'échappaient de la prison de Dijon. L'un d'eux, me semble-t-il, a été rattrapé. L'autre court toujours d'ailleurs.
Oui.
Gérald Darmanin, on découvre a posteriori que l'un de ces deux avait un compte TikTok, un téléphone internet donc, un compte TikTok où il se filmait en direct de sa cellule et où il vendait même via TikTok de la drogue et des téléphones portables. Et puis, à la prison de Châteaudun, et ça on peut voir les images, il y a un détenu, en ce moment même semble-t-il, qui a 2 comptes TikTok, qui cumule à lui tout seul plus de 60 000 followers. Il s'exprime sous le titre de Le Déjanté. comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que non seulement ça veut dire qu'ils ont un portable, qu'ils ont Internet, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont peur de rien puisqu'ils le font à visage totalement découvert. Nous, on floute parce qu'on respecte la loi, mais en réalité, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien. On sait où ils sont, on peut les retrouver sur TikTok, ou alors vous êtes naïf et vous regardez pas TikTok quand vous travaillez dans les prisons.
Je pense que je suis tout sauf naïf et que justement je remets de l'ordre dans les prisons. Il y a 80 000, 86 000 détenus et il y a 200 prisons et nous sommes en train de rétablir l'ordre dans chacune d'entre elles. Évidemment, ça prend du temps. Je le fais avec beaucoup de fermeté. Je pense qu'une partie de ce que vous évoquez n'existe plus et quand on aura l'occasion d'en reparler, on pourra aussi dire que pendant la loi, et je pense dès le début du mois de janvier, je prendrai une disposition réglementaire, c'est-à-dire sans passer par la loi, qui met fin aux remises de peine lorsqu'on trouve un téléphone portable dans une prison. Parce qu'aujourd'hui, quand on trouve un téléphone portable dans une prison...
Donc tous ces téléphones que vous avez trouvés, ça a comme conséquence immédiate qu'ils n'auront pas de remise de peine.
Je change en ce moment le règlement, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on trouve un téléphone dans une prison? La plupart du temps, on le jette, point. Il y a parfois du quartier disciplinaire, pendant 10 jours, 5 jours, 12 jours, les détenus vont dans le quartier disciplinaire, mais il ne se passe pas grand-chose. Bon, donc là, il faut qu'on arrête cette naïveté. Je vais changer le règlement, je vais changer nos textes de loi très rapidement pour le début du mois de janvier, pour dire que ceux qui ont un téléphone portable et que l'on trouvera une fouille et qu'on les trouvera, fallait-il faire des fouilles jusqu'à présent, on ne le faisait pas forcément à ce niveau, eh ben, ils n'auront pas de remise de peine.
Est-ce que ces fouilles, elles vont avoir lieu une fois ou est-ce qu'elles vont désormais être répétées régulièrement?
Exactement, je mets en place une police pénitentiaire, c'est-à-dire des gens dont le travail sera de faire ces fouilles de façon systématique et évidemment, elles seront très largement mises en place, mais aussi des fouilles au parloir, parce qu'une partie de ces objets rentrent par les parloirs. Et je constate que dans certaines prisons d'Île-de-France, désormais, les fouilles sont systématiques au parloir tous les jours et c'est une très bonne chose. On trouve plus de drogue, si je prends l'exemple de la maison d'arrêt de Nanterre, le contrôle qui a été encore fait au parloir hier par le préfet de Hauts-de-Seine que je remercie, montre que nous avons rétabli, me semble-t-il, des gens qui acceptent d'aller voir les détenus sans apporter de drogue, sans apporter de téléphone.
Autre contradiction parmi ce que vous avez pointé, Gérald Darmanin, la prison de Vendin-le-Vielle, c'est une des prisons que vous avez souhaitées, des prisons de haute sécurité, comme on dit, avec des détenus sélectionnés comme étant parmi les plus dangereux du pays. Pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Et pourtant, le 24 novembre dernier, l'un des détenus de cette nouvelle prison de haute sécurité a obtenu une permission de sortir. Par le juge des libertés. Contrairement à ce qu'avait demandé justement le directeur de la prison et le parquet. Mmh. Et donc il est passé d'une prison où vous êtes, vous le dites encore ce matin, il est censé être coupé du monde, ne pas avoir accès à un téléphone portable, à tout d'un coup, une journée où il a pu traverser la France, prendre le TGV, utiliser à volonté le téléphone de sa femme. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire, il y a une contradiction manifeste.
Le juge d'application des peines l'a décidé. Moi, je critique pas une décision indépendante d'un juge. Non, parce qu'il applique la loi. La loi est donc mal faite. On va changer la loi. Personne ne comprend quelqu'un qui soit en régime carcéral de haute sécurité. C'est le même régime anti-mafia en Italie. Hein. La France n'invente rien. Elle a copié la fermeté italienne qui a fonctionné dans la lutte anti-mafia. Et bien évidemment, quand vous êtes dans un quartier de haute sécurité, vous ne pouvez pas, alors que votre libération est supposée être dans 3 ans, avoir un entretien d'embauche physique, on aurait pu le faire d'ailleurs en vidéo, en visio, c'était tout à fait possible d'ailleurs, par l'application d'une règle
absurde. Mais ça, pardon, le juge pouvait tout à fait en décider. Il aurait pu dire, j'autorise cet entretien d'embauche, en plus un entretien d'embauche potentiel avec un futur employeur. Écoutez, je l'autorise, mais par visio.
Il n'a pas souhaité le faire. Comme il faut que l'on puisse mettre.
Donc c'est pas juste une question de loi, c'est aussi une question à un moment de choix d'application.
Eh ben, on va changer la loi. S'il y a une telle interprétation possible qui choque à ce point les Français et qui rend en effet...
Qui vous a choqué, vous?
Bah, ça rend absurde un système de haute sécurité si quelqu'un, en effet, peut, dans la journée, sortir. Et c'est même insultant pour le travail des agents pénitentiaires qui prennent des risques très importants contre ces personnes potentiellement très dangereuses, qui sont d'ailleurs envoyées dans les prisons par avis du juge d'instruction. Je veux dire, c'est pas le ministre de la Justice qui tout seul décide
ses
affectations. C'est des services de renseignement, les policiers, les gendarmes et les magistrats. Donc c'est quand même de ses collègues, des collègues qui le décident. Bon, le juge d'application des peines et cette décision a été confirmée en appel. Hein, donc il y a eu 2 décisions de justice qui permettaient à cette personne de pouvoir avoir cet entretien. Ben, on va changer la loi si la loi permet cet entretien. Et cette loi, elle va permettre en effet de faire un parallèle entre ce que nous faisons contre l'activité terroriste et les activités narcotrafiques. Le narcotrafic qui tue parfois même beaucoup plus que le terrorisme en France. Alors évidemment, c'est très choquant ce que je peux dire, mais tous les jours, il y a des tentatives de meurtre, il y a des corruptions actives.
Mais le terrorisme,
ce
n'est pas le nombre de morts qui est le problème.
Non,
c'est...
je ne compare pas.
C'est évidemment.
Je ne compare pas les deux choses.
Ce que
je
veux dire, c'est aussi que la puissance de ce que ça dit de notre société.
Oui, bah je pense que quand une jeune fille qui révise toute seule dans un immeuble à Marseille se
et
prend
une balle perdue,
je pense que ça touche aussi notre société très profondément. Je pense que quand le frère de quelqu'un qui est un lanceur d'alerte écologiste est assassiné de plusieurs balles dans la tête, devant sa mère, je pense que ça dit quelque chose de notre société. Et donc moi, je ne peux pas être quelqu'un qui dit bon, c'est comme ça et puis c'est
Est-ce que vous estimez d'ailleurs que ce meurtre
est une menace pour la sécurité intérieure de notre pays?
Ce meurtre, vous évoquez le meurtre du frère d'Amine Kessassi, c'était il y a bientôt un mois. Pour vous, c'est un tournant. Est-ce qu'il s'agit en effet d'une forme de terrorisme au sens terroriser tous ceux qui voudraient parler, remettre de l'omerta? Est-ce qu'il y a de cela?
Mais c'est incontestable que dans l'acte de terreur, il y a l'assassinat, il y a la démonstration, qu'on s'en prend pas simplement à celui qui tient le point de deal ou à celui qui veut reconquérir votre territoire. Jusqu'à présent, c'était un peu ça. Moi, j'ai souvent entendu, oh, bah, ils se tuent entre eux. J'ai trouvé une phrase que j'ai détestée parce que on voit bien que ensuite.
Dans ce cas-là, ça nous, au fond, finalement, bon, bah, ça nous
regardait
pas, quoi.
Mais pendant longtemps, je pense que les gouvernements, quels qu'ils soient, se sont dit bon bah voilà, ce dérèglement entre voyous. Mais on voit bien qu'aujourd'hui ça touche des lanceurs d'alerte, des journalistes. Il y a en Belgique et aux Pays-Bas des avocats de vos confrères qui font des enquêtes sur les
et qui
mafias,
sont menacés.
Qui sont même assassinés dans les rues d'Amsterdam, de Rotterdam ou de Bruxelles. Il y a des magistrats qui sont assassinés et il y a, on le sait, une volonté de lutter contre même l'autorité de l'État. Donc oui, c'est un acte de terreur.
Il y a le mot que vous avez lâché, corruption. Vous l'avez dit à deux reprises, oui, spontanément, depuis le début de cet entretien. Deux jeunes agentes administratives, on l'a appris il y a deux jours, du tribunal judiciaire de Marseille, ont été mises en examen pour la consultation illégale de fichiers qu'ensuite elles monnayaient, plus ou moins, à un interlocuteur qui était proche de la DZ Mafia. Est-ce que ça veut dire que désormais, l'État est corrompu?
L'État n'est pas corrompu, mais l'État doit lutter contre la corruption de certains de ses agents. Parce qu'ils mettent en danger, d'ailleurs, les autres agents. C'est vrai dans l'administration pénitentiaire, c'est vrai dans la magistrature, c'est vrai dans les agents qui travaillent pour les magistrats. Et d'ailleurs, je me félicite, même si on verra bien si ces personnes sont coupables à la fin. Je mets du conditionnel, elles ont la présomption d'innocence. Mais que ces personnes ont été confondues par la cellule anticorruption que nous avons mis en place au parquet de Marseille, puisque désormais, nous devons regarder les choses en face. Et je pense que le ministère de la Justice est la seule vraie administration, avec les douanes peut-être, qui regarde en face la corruption.
Vous laissez
possible.
Entendre que cette question, elle s'est posée aussi dans la police.
Exactement.
Elle se pose dans la gendarmerie.
Elle se pose au service des impôts. Elle se pose aussi chez les élus locaux, dans l'administration locale, parce qu'il y a.
Et si donc il faut se pencher là-dessus aujourd'hui.
Nous
que
avons,
toutes les administrations se penchent là-dessus.
Exactement, mais je pense qu'il faut bien comprendre que les narcotrafiquants, ils ont une surface financière extrêmement importante. Cet argent qui corrompt jusqu'au cœur des hommes, disait le président Mitterrand, cet argent, il permet de pouvoir acheter tout le monde. Et Monsieur Amra, au bout de quelques mois de cavale, et ça coûte très cher une cavale, Monsieur Amra, il a su proposer 2 millions d'euros aux policiers roumains qui venaient l'arrêter après autant de mois de cavale. Imaginez ce qui se passe dans les prisons, chez les services enquêteurs, chez les gens qui travaillent auprès des magistrats, qui ont des informations, parfois des élus locaux, à qui on dit de fermer les yeux pour pas installer la caméra de vidéosurveillance.
Et non seulement on leur donne de l'argent, mais on menace aussi leurs proches.
Alors, la corruption, elle a plusieurs facettes. Ça peut être aussi quelqu'un. Moi, j'ai un agent pénitentiaire dont je me rappelle très bien le visage, qui m'a expliqué qu'un détenu, ça m'a d'ailleurs convaincu de faire les prisons d'haute sécurité, souhaitait l'anniversaire de sa petite fille qu'il ne connaissait pas,
ouais,
en l'appelant par son prénom.
Sous-entendu, je sais.
Exactement.
Et votre fille, je sais où est-ce qu'elle habite et je sais son
travail. Et notre travail, c'est de protéger les agents aussi de ça.
Gérald Darmanin, le protoxyde d'azote. Vous avez reçu hier la famille de Matisse. C'est ce jeune de 20 ans qui a été fauché à Lille par un chauffard qui fuyait un contrôle de police, n'avait plus le permis et conduisait sous protoxyde d'azote. Est-ce que le protoxyde d'azote sera mis sur la liste des stupéfiants?
Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Avec Laurent Nunez, on a reçu la famille, la maman très digne. Et je pense au papa, évidemment, de Matisse. Je le souhaite. Le protoxyde d'azote doit être vu comme un stupéfiant. Et par ailleurs, je veux aussi dire que c'est aussi le drame de la récidive, la mort de Matisse. Le chauffard avait 11 condamnations. 11 condamnations.
Et alors, est-ce qu'il y aura une interdiction officielle de détention et de consommation du protoxyde d'azote au volant?
Je le souhaite, et je souhaite aussi qu'on puisse saisir le véhicule lorsqu'on trouve du protoxyde d'azote dans le véhicule, et je souhaite que ce soit une circonstance aggravante lorsqu'il y a des accidents et lorsqu'il y a des assassinats involontaires. On appelle ça désormais un homicide routier, selon la loi qu'on vient de faire adopter. Je souhaite qu'effectivement le protoxyde d'azote soit vu comme la drogue.
1000 nouveaux agents dans le prochain budget, avez-vous dit? Encore faudrait-il qu'ils soient votés? C'est toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que votre famille politique, c'est toujours ce qu'on appelait initialement le socle commun, quand on voit que ni LR ni Horizon n'ont voté pour, au contraire du PS?
Une partie d'Horizon et une partie d'LR ont voté pour.
Au contraire du PS.
Alors, le budget de la sécurité sociale n'est pas le meilleur budget que l'on ait fait. C'est un budget qui met parfois plus d'impôts, parfois plus de dépenses et qui ne fait pas la réforme
en
des
fait,
retraites.
Vous ne l'auriez pas voté vous-même.
Je me suis exprimé publiquement pour dire que je l'aurais voté parce que dans la situation politique dans laquelle on est, c'est ça ou la dissolution. Donc, je comprends le travail très important, très courageux qu'a fait Sébastien Lecornu de compromis pour la stabilité de notre pays. Est-ce que c'est le budget rêvé pour la sécurité sociale? La réponse est non. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faille augmenter les impôts et augmenter les dépenses et pas faire la réforme des retraites. Et je trouve qu'Édouard Philippe a eu raison d'alerter sur les comptes publics. Mais une fois qu'on a dit ça, je constate aussi la responsabilité d'Édouard Philippe et de tous ceux qui ont accompagné ce budget.
Soit qui, à la fin, n'ont pas appelé à voter contre.
Le budget n'a pas été retoqué, c'est une très bonne chose, le budget de la sécurité sociale. Maintenant, il faudra que dans la campagne présidentielle qui arrive, et notamment dans la prochaine majorité, dans désormais plus d'un an, on puisse en effet retrouver un schéma qui baisse les dépenses, qui baisse les impôts, qui encourage l'entreprise et qui explique aux Français qu'il faut travailler, non pas tous davantage, parce que beaucoup de Français travaillent beaucoup, mais un certain nombre ne travaillent pas assez. Et c'est ça qu'il faudra faire.
Vous donc, vous êtes engagé officiellement, au moins le temps que vous soyez ministre, à ne pas être, à proprement parler, dans l'arène politique des ambitions de 2027, ça vous coûte ?
Non, parce que je fais des choses utiles pour les Français, vous venez de le dire. Je pense que nous remettons droit à la maison justice, on met droit à les prisons. Je me bats pour ça, et je me bats pour donner à la France ce qu'elle veut, c'est-à-dire, je crois, une justice juste, digne, humaine, mais ferme. Et puis après, lorsque j'aurai rempli ma mission, comme je l'ai fait aux impôts avec l'impôt à la source, comme je l'ai fait à l'intérieur avec les Jeux Olympiques, eh ben, nous verrons ce que je ferai pour notre pays, collectivement, soit à ma simple place d'élu local à Tourcoing.
Soit
pour contribuer au débat national. Et quand on est un homme politique, je pense qu'on aime son pays, on a envie qu'il aille mieux. Et j'aime mon pays et je souhaite qu'il aille mieux.
Merci Gérald Darmanin, beaucoup. Ministre de la Justice, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur RMC BFM TV. Dans un instant, la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient à sa façon, évidemment, sur l'adoption du budget de la Sécu.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, est venu nous voir et il est resté face à Canteloup. Bonjour Sébastien Chenu. Il était donc mon invité ce matin. Éric Ciotti voulait vous dire un mot justement.
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Et bonjour à mon excellente amie de toujours, déjà depuis au moins un an, hein, Sébastien Chenu. Oui, nous nous connaissons tellement bien que l'an prochain, je vous donne un scoop, Madame de Malherbe, avec Sébastien, nous ferons partie du même gouvernement. Voilà. Et enfin, je l'espère. D'ailleurs, Sébastien, tu as mon numéro ?
Toujours.
Alors, je te le redonne. 06 23 47 12 85. 85, hein, pas 87, 85.
Monsieur Ciotti, le budget de la sécurité sociale est donc passé. Vous aviez voté contre. C'est une défaite pour vous, hein ?
C'est vrai que c'est une défaite. C'est une défaite, mais c'est aussi, notez-le, une victoire. Vous imaginez si nous avions gagné, Sébastien Lecornu aurait quitté Matignon. Donc, il aurait nommé Jordan Premier ministre jusqu'à la présidentielle, un an les mains dans le cambouis, et il aurait grillé forcément son capital sympathie. Donc, vous imaginez le gâchis, alors qu'il aurait pu être président, notre Jordan, en plus, avec Marine inéligible derrière. Non, nos deux cartouches auraient été grillées, donc, pour la présidentielle. Donc, ça aurait été la cata. Non, non, heureusement... Nous avons perdu.
Vous restez positif, hein, franchement. Hein.
Oui, c'est toujours, toujours positif. D'ailleurs, Marine et moi, si Marine et Jordan étaient grillés, après, dans l'organigramme, si je regarde bien, c'est Sébastien. Je reprends. Marine Miss France, en deux, c'est Jordan. Oui, c'est ça. C'est Sébastien, la troisième dauphine.
Ah, donc, oui.
Il est bien numéro 3. Non, mais on ne sait jamais. Oui, tout à fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je te donne quand même mon mail, hein,
voilà, du coup,
Sébastien. Donc c'est ericciotti.@estrosibouffon.fr.
Voilà, merci.
Sur le portable, Ciotti. Vous êtes trompé, le portable de Ciotti, c'est 0608.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC.